micro-ondes.
Une émission qui vous tient à contre-courant.
Tous les premiers dimanches du mois.
On vous parle de sujets brûlants.
Mais c'est pas de réchauffer.
Une émission qui s'attaque au racisme,
aux frontières
et aux injustices sociales. À l'intérieur, pas de la lutte, que de la lutte.
De midi à 14h.
Sur News FM 101.2.
Bonjour.
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 Énormément de monde dans le studio, même s'il y en a qui se sont permis de parler et de dire bonjour deux fois. On ne citera pas les noms. En tout cas, vous retrouvez l'équipe de Micro-Ondes et on est heureux de vous retrouver donc sur News FM le 101.2. News FM et Micro-Ondes surtout, l'émission qui donc prend l'antenne tous les premiers mercredis du mois de midi à 14h. Tous les premiers dimanches du mois, puisqu'on est dimanche et non pas mercredi. Une émission également à retrouver le troisième dimanche du mois en rediffusion. Une émission également à retrouver en podcast sur le site internet de l'émission newsfm.fr. www.radio-newsfm.fr. Micro-ondes, donc une émission pour s'attaquer au racisme, aux frontières et aux injustices sociales. Une émission pour faire entendre une autre voix. Pour donner un autre point de vue, pour faire parler en fait d'autres personnes qui ont d'autres choses à dire. Aujourd'hui, l'émission porte bien son nom parce que depuis 3 semaines et depuis la dernière émission de Micro-Ondes, beaucoup de choses se sont passées. On a entendu également beaucoup de choses et d'autres dans les médias. L'émotion, certes légitime, a été fortement instrumentalisée et a, selon nous, empêché une analyse un peu froide et un peu réfléchie également des causes de ces attentats. Alors on s'est dit que comme c'est aussi l'objectif de cette émission, on allait utiliser cette émission pour faire entendre une autre voix, pour faire entendre un autre point de vue. Le sommaire donc de cette émission, vous l'avez compris, c'est notamment une réanalyse des événements du 13, avec d'abord des éléments historiques et géopolitiques sur la Syrie, et puis également un éclairage sur ce que c'est que l'état d'urgence post-attentat, qu'est-ce que ça implique, quelles en sont les implications. Avant cela, on parlera de la marche pour la dignité et contre le racisme qui a eu lieu à Paris le 31 octobre dernier. Certains d'entre nous, certains et certaines y étaient. Et on a donc ramené un petit peu de son et ramené également avec nous le collectif pour la dignité et contre le racisme. On en parlera juste après. On terminera enfin cette belle émission par donc un petit reportage sur le plan hivernal. Comme vous le savez, donc depuis le 31 octobre, l'hiver a officiellement commencé dans la bouche de la DDCS et ils ont mis en place le plan hivernal. Un certain nombre de places d'hébergement ont été ouvertes, mais elles sont évidemment insuffisantes encore cette année. On en parlera donc juste après. Dans tous les cas, cette émission, c'est une émission pour faire entendre notre point de vue, c'est aussi une émission pour faire entendre le vôtre. Alors n'hésitez pas à vous exprimer en nous écrivant sur le Facebook de notre émission donc Micro-Ondes News FM, en nous appelant au 04 56 14 23 54. 04 56 14 23 54. Tout de suite, on passe à la présentation donc du collectif pour la dignité contre le racisme.
Pour commencer cette émission avec nous sur le plateau, on a deux invités qu'on est vraiment très contents de recevoir, qui sont membres du collectif de la dignité et contre le racisme 38. Donc Chacha et Kenja, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour.
Alors est-ce que vous pouvez un peu nous présenter c'est quoi ce collectif, comment il s'est formé, quand est-ce qu'il s'est formé et qu'est-ce que vous y faites, quels sont vos objectifs?
Eh bien le collectif de la dignité et contre le racisme 38 est un collectif très récent, puisqu'il a été créé en septembre 2015. Et on se réunit à Villeneuve, donc à la Villeneuve de Grenoble. C'est la fusion de deux collectifs créés aussi en 2015. Donc le premier.
Le premier, c'est le collectif Zayed et Bouna, qui s'est créé vers le mois de mai-juin, à partir d'une décision de justice que beaucoup de gens ont trouvée inique, où justement les officiers, enfin les agents de police qui étaient poursuivis pour la mort de Zayed et Bouna, ça fait 10 ans, ils ont été relaxés et donc une forme d'indignation est montée et ce collectif s'est constitué en recherchant aussi à préparer les 10 ans qui étaient prévus donc pour octobre-novembre.
Et le deuxième collectif, c'est le collectif La Fringale, qui porte le nom du snack où il se réunit à Villeneuve. Il a été créé en janvier 2015 par des personnes qui ne se retrouvaient pas dans l'Union nationale et dans le on est Charlie, je suis Charlie, pardon, et la déferlante médiatique qui a suivi, donc des thématiques qui sont d'actualité. Et ces personnes étaient perplexes par rapport à ça et se posaient des questions sur les conséquences sécuritaires et islamophobes des islamophobes. Et du coup, elles se sont réunies en collectif, ont organisé une campagne d'affichage et notamment aussi une rencontre avec Ismaan Chouder, la présidente du collectif féministe pour l'égalité, pour parler de l'islamophobie qui touche particulièrement les femmes qui portent le foulard. Et donc, elle a abordé les combats que ces femmes mènent pour faire reconnaître leur droit à vivre comme elles l'entendent, au moins comme les autres. Et donc, la fusion de ces deux collectifs, Ziad Ebouna et La Fringale, a donné le collectif de la dignité contre le racisme 38, et d'autres individus ont rejoint ensuite. Ce collectif est un collectif mixte.
Ah ben, c'est un collectif mixte. Mixte dans tous les sens du terme, bon, qui comprend des gens de toutes origines, des hommes et des femmes, de toutes professions, de toutes classes sociales. Et c'est vraiment un collectif qui incarne les convergences et qui se retrouve vraiment dans les enjeux du moment, quoi. Qui sont les enjeux qu'on partage tous en France, en fait.
Il n'y a pas de personne de la haute bourgeoisie.
Pas encore.
Les classes sociales représentées.
Est-ce que c'est un appel? Vous auriez besoin d'un quota de ce genre
de personnes? Non, merci.
Non, d'accord.
Ça va. Les objectifs du collectif, il y en avait surtout deux. C'était commémorer les 10 ans des révoltes de l'automne 2005, donc qui ont fait suite à la mort de Ziad Ebouna, dont Kenja a parlé. Et puisqu'il faut aussi qu'on commémore d'autres choses que ce qui nous est imposé dans l'agenda officiel, et nos morts et nos luttes. Et le deuxième objectif, c'était de préparer un départ collectif pour la marche de la dignité contre le racisme à Paris. Donc il fallait informer sur celle-ci et trouver de l'argent.
Et oui, parce que comme on en a parlé dans la dernière émission, vous avez trouvé le moyen de louer un bus pour que des tas de gens qui n'auraient pas pu forcément se rendre à Paris pour cette marche puissent le faire. Mmh. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus, c'était quoi cette marche? Qui l'organisait? Pourquoi?
Alors, la marche, elle était organisée à l'appel. Alors moi, c'est ce qui m'a déjà frappé, c'était un appel de femmes, de regroupement de femmes, mais pas juste pour les femmes, quoi. On en parlera un peu plus tard, on va présenter ce collectif qui s'appelle le MAFED. Et plein d'organisations, en fait, se sont greffées là-dessus. Et voilà, sur Grenoble, moi, j'ai reçu l'information qu'un bus s'organisait, que cette marche, était prévue sur Paris. Et on s'est retrouvés, voilà, tout un groupe. On était une cinquantaine. Et... là, j'ai commencé vraiment à observer les uns et les autres, qui étions-nous, que faisions-nous là, etc. C'est à ce moment que j'ai en fait rejoint le collectif. Et je crois qu'il est né quelque chose là, que moi je qualifie d'historique, mais bon, c'est peut-être un peu ronflant, quoi.
N'ayons pas peur des mots, c'était vraiment historique, hein, je pense.
Et du coup, cette marche-là était appelée donc par la MAFED pour le samedi 31 octobre à 14h. Donc, départ de Barbès, un quartier populaire du 18e arrondissement de Paris. Elle a son arrivée à Bastille, le lieu symbolique d'arrivée des manifs. Elle était suivie de prises de parole et d'un concert pour clôturer la journée avec Bams, Tunisiano, Medine, Kerry James.
Et voilà, et Micro-Ondes était aussi présent à cette marche. Pour vous donner une idée de ce que c'était l'ambiance de cette marche et aussi des collectifs qui étaient présents, on vous propose d'écouter un reportage qui a été effectué le 31 octobre à Paris.
Bonsoir, salam alaikum. Donc moi je suis membre de la MAFED, le collectif de femmes qui a organisé la marche de la dignité aujourd'hui, donc le 31 octobre, à l'occasion donc des 10 ans des émeutes. On a répondu à l'appel d'Amel Bentounsi, la sœur de Amine Bentounsi, tuée par la police. Ce collectif-là a pour but de s'organiser donc autour des questions liées au quartier populaire et à l'immigration. Nous sommes un collectif de femmes subissant le racisme, subventionnées par personne, autonomes, libres et en pleine possession de notre décision.
Une pensée à mes frères et sœurs qui ont fait des kilomètres ces derniers jours pour être présent aujourd'hui. Vous savez, dans toute la France, des formidables réseaux de solidarité se sont organisés. Des gens ont mis en œuvre pendant des mois des brocantes. On fait appel à des dons pour qu'en fait les personnes qui sont les moins privilégiées, les plus précaires puissent être là, parce qu'un aller-retour à Paris ça coûte cher, et du coup une formidable solidarité s'est mise en place, donc une pensée pour eux. Grenoble, Lyon, Strasbourg, Lille, Bruxelles et toutes les villes qui sont présentes, dignité. Mais je vous avoue que ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est d'avoir pu emmener avec moi mes sœurs qui n'ont pas l'habitude d'être dans des mouvements militants. Elles sont là devant et c'est vraiment quelque chose de très émouvant parce que nous, les femmes voilées, nous sommes en première ligne aujourd'hui du racisme d'État. La France, elle brandit un islamo-fantasme pour mieux cacher ses problèmes. Elle est là à nous montrer du doigt comme si nous étions l'incarnation de tous les maux français. Mais pourtant, on est là, on s'organise et on résiste.
Je fais partie du collectif Maman Tout Égal, un collectif qui a été créé en 2012 suite aux propos de l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Luc Chatel, qui voulait exclure les mamans qui portent un foulard de participer aux sorties scolaires avec leurs enfants, comme toutes les autres mamans. Donc depuis 2008, on se bat contre ces discriminations. Malheureusement, actuellement, on est encore en train de se battre, malgré l'avis du Haut Conseil d'État qui est favorable à ne pas nous discriminer, malgré les propos de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, qui dit qu'il ne faut pas exclure les mamans, qu'on est là pour aider et qu'on n'est pas des agents du service public. On n'est pas tenu au devoir de neutralité. Malheureusement, beaucoup de chefs d'établissement aujourd'hui excluent encore des mamans, ce qui est fort dommage pour l'école de la République qui doit accepter tout le monde. Liberté, égalité, fraternité, les enfants ont vite compris que ce n'était pas pour tout le monde.
Allez les femmes en lutte ! Femmes en lutte des quartiers !
La présence du collectif féministe pour l'égalité dans une manifestation, une marche comme celle d'aujourd'hui qui revendique la dignité, était une présence obligée. Dès le début, nous avons signé l'appel de la MAFED. Le collectif féministe pour l'égalité s'est créé au moment du vote de la loi sur le voile, la loi du 15 mars 2004. Le collectif féministe pour l'égalité était le seul collectif féministe opposé à cette loi sur le voile, puisque pour nous, exclure des jeunes filles de l'école de la République était en soi un signe d'inégalité de traitement. Ce qu'on revendique, c'est la place de chacune et de chacun dans cette société, dans ce pays, la dignité pour toutes les femmes. Et donc on continue à revendiquer l'abrogation de la loi du 15 mars 2004.
Et nous réclamons la justice.
Et nous réclamons la justice.
Et le respect de l'égalité.
Et le respect de l'égalité.
Nous réclamons la justice.
Nous réclamons la justice.
Et le respect de l'égalité.
Et le respect de l'égalité.
Pas de paix.
Pas de justice.
Pas de paix.
Pas de justice.
Pas de paix.
Pas de justice.
Pas de paix.
Je suis devant vous aujourd'hui parce que ma famille est soumise à ce même régime d'exception que la France continue à appliquer aux personnes issues de la colonisation. Mon frère Lamine Diagne a été tué, il avait 25 ans, c'était en 2007. Il a été maintenu face contre terre alors que ses mains et ses pieds étaient attachés par 5 policiers agenouillés sur le dos. Il est mort asphyxié. Nous avons porté plainte, nous nous sommes constitués partie civile. 7 ans d'instruction pour aboutir à un non-lieu. Nous avons fait appel. La Chambre de l'instruction, en 2015, la Chambre de l'instruction a confirmé le non-lieu. Nous avons fait appel. Et aujourd'hui, nous sommes à la Cour de cassation. Et on attend la décision de la Cour de cassation. Ma famille n'est pas la seule dans ce cas précis. L'année de la mort de Lamine, le collectif Vivolé, dont nous faisons partie, a recensé 19 autres victimes. En 2012, on a arrêté le décompte en 2012. Il y avait une personne tuée par la police toutes les 2 semaines. Faites le compte sur une année, combien ça fait. Et à chaque fois, ces personnes ne sont ni armées et elles ne menacent la vie de personne. Donc qu'est-ce qui peut justifier que des policiers s'agenouillent sur quelqu'un qui n'est pas armé, qui est seul, qui ne peut rien faire pendant 30 minutes? Que faut-il faire dans ce pays pour arriver à ce que la justice applique la loi? Lorsqu'un policier tue en dehors du cadre de légitime défense, la loi prévoit 20 ans de réclusion, 20 ans de prison. Pourquoi ce n'est jamais le cas? Pourquoi la loi n'est pas appliquée par ceux-là même qui édictent les lois? Et d'autre part, pour empêcher que cela se reproduise. Parce que nos enfants évoluent dans ce pays et ils ne sont pas en sécurité. On ne se sent pas en sécurité. Il y a des quartiers où la police fait ce qu'elle veut. Et la justice les couvre. Il faut surveiller le travail de la police. Ils sont armés. Ils ont le pouvoir sur n'importe lequel d'entre nous. Donc s'il n'y a pas de contrôle, ça veut dire que c'est la porte ouverte à tous les crimes possibles. Et c'est exactement ce qui se passe sur le terrain. Rendez-vous compte, une personne toutes les deux semaines. Je vous remercie de m'avoir écouté.
On ne pardonne pas la l'indienne. On n'oublie pas.
Nous, on est un certain nombre de gens à faire partie du collectif 8 juillet. Le 8 juillet 2009, à Montreuil, on s'est fait tirer dessus au flashball. C'était suite à l'expulsion d'un lieu occupé dans le centre-ville de Montreuil. Et le soir, la police nous a tiré dessus et nous a tiré au niveau de la tête. Il y a 6 personnes qui ont été touchées, à la clavicule, au front, à l'épaule. Et il y a l'un d'entre nous qui a été touché à l'œil et qui a perdu un œil. On s'est constitué en collectif et pour les suites juridiques et aussi pour porter ces histoires ensemble et aller à la rencontre aussi d'autres collectifs de blessés et de mutilés par la police et des familles de gens, de proches qui ont été tués par la police. Avec d'autres aujourd'hui, on vient dire qu'aujourd'hui la police mutile et tue en toute impunité et qu'il y a des vies et des corps qui comptent moins que d'autres dans ce pays.
Faites attention à vos poches, il y a des roms dans la foule. La justice, j'y étais hier, à la cour d'appel de Paris, où 3 fils de Raymond Burem, Manouche, résistant, internés dans des camps par la police et la gendarmerie française, dans des camps d'internement pour nomades. Il a été frappé chez lui, il y a un an, par un policier d'une trentaine d'années, à coups de matraque. Il a été frappé parce que cette police cherchait, elle cherche depuis 30 ans, un Gurem qui aurait commis un crime. Et depuis 30 ans, elle est derrière ce Gurem et elle ne trouve rien de mieux que d'aller frapper ce vieil homme de 90 ans dans sa caravane. Voyant cela, ses fils, évidemment, se sont levés pour protéger leur père. Eh bien, ils ont été condamnés pour outrage et rébellion. Ils ont fait appel et une décision sera rendue le 9 décembre prochain. Voilà la justice dans quel état elle est. Mais on peut parler aussi d'une autre justice, de la justice au sens plus large, la justice sociale. Elle en est où cette justice? Quand à la Courneuve, un maire communiste met dehors de leur habitation 80 familles qui depuis 2 mois sont devant cette mairie et avec le seul soutien d'associations, on les met à mal. Mais il y a des bébés qui naissent, il y a 2 jours, une petite aînée, l'espoir est là. Et ces enfants qui naissent sont autant de combattants pour la justice sociale et nous nous battrons jusqu'au bout, tous ensemble, dans notre diversité qui fait notre richesse. Nous décelons aussi les avatars du racisme d'État qui, hélas, ne sont pas réservés au Front National.
Nous sommes tous noirs, arabes, rois des musulmans. Nous sommes tous noirs.
Je suis militant au DAL de Paris. Juste pour vous présenter un peu le DAL, donc c'est une association qui lutte en fait pour un logement décent pour toutes les personnes qui ont des problèmes de logement, que ce soit les personnes mal logées, sans domicile ou encore qui vivent dans des logements insalubres ou indécents. Depuis le 31 juillet, les familles expulsées ou expulsables ont décidé en fait de s'installer ici à République, pour notamment en fait protester et demander en fait la fin des expulsions et le relogement des familles expulsées. Pendant tout l'été, on a mené plusieurs mobilisations avec notamment les sans-papiers, les sans-domicile, les migrants. Donc il y a eu pendant tout cet été une convergence des luttes entre les différentes organisations. Ça a été assez positif, on a fait plusieurs manifs. Maintenant, l'idée, c'est demander la réquisition notamment des logements vides. Aujourd'hui, en France, il y en a plus de 2 millions. Une loi, en fait, permet aujourd'hui à l'État de réquisitionner. Il est nécessaire aujourd'hui de réquisitionner ces logements-là et pour les migrants, mais aussi pour les Français, les sans-papiers, les immigrés, les sans-domicile, les expulsés, donc pour tout le monde. Donc l'État a le pouvoir d'agir. Donc c'est pour ça en fait qu'aujourd'hui on a mis un campement à la place de la République parce que faut un peu pousser l'État en fait. Si personne ne le fait, bah il bougera pas.
On est là, c'est la 16-75 des immigrants, 75 les sans-papiers. On est ici pour masser, pour nos droits. On veut qu'on nous donne des papiers, liberté pour tous, circulation pour tous.
Il y en a marre, sans papiers, et des années. Il y en a marre, et sur qui l'a, et nous est 10 ans, et nous est 5 ans, la préfecture, un rendez-vous.
Nous sommes ici un collectif congolais de Kinshasa, de la RDC précisément. Le RCK et les résistants combattants du Congo est un mouvement de pression à caractère politique qui luttons contre la discrimination en Afrique, qui luttons contre la mauvaise gouvernance au Congo et surtout qui luttons contre les massacres de plus de 12 millions de Congolais et plus de 3 millions de femmes violées. Nous sommes ici dans cette marche pour parler de la dignité de la femme. La femme africaine n'a plus de dignité car elle est violée au plus profond d'elle. Sa matrice elle-même est carrément délogée de son corps par des instruments contingents qu'utilisent des milices et des armées étrangères envoyées par les multinationales. Ce n'est rien d'autre que les multinationales qui font cela. Ce que nous vivons même ici en Europe, même ici en France, c'est le résultat de la gouvernance, de l'emprise des multinationales sur les institutions. Les institutions, maintenant que nous votons, ne sont plus libres de faire ce qu'elles veulent. Elles sont assujetties par les multinationales. Et ces multinationales en Afrique extraient les minerais, prennent les richesses pour les réinvestir ici. Alors c'est pour ça que nous marchons ici, pour dire non à tout cela. Nous demandons à ce que toute l'humanité se rassemble. C'est que ce sera qu'ensemble que nous réussirons à finir ce fléau. Contre le capitalisme, c'est l'humanité. Et cette humanité-là, nous devons la travailler ensemble, que nous soyons noirs, blancs, arabes, jaunes, multicolores même si on veut. Donc j'appelle à tous nos concitoyens français, africains, à venir rejoindre ce mouvement. Ne restons plus dans l'indignation, passons dans l'action.
En fait, on a formé un cortège Palestine au sein de la marche de la dignité pour représenter dignement la Palestine, plus particulièrement par rapport au contexte actuel. Après, nous, notre orgas, c'est la section parisienne de la campagne BDS France. On est le relais en France de l'appel BDS de 2005 de la société civile palestinienne qui appelle toutes les consciences du monde à boycotter économiquement, culturellement, sportivement, appelle à des désinvestissements, ils appellent aussi à des sanctions contre Israël jusqu'à ce qu'ils respectent le droit international.
On est juifs et juifs révolutionnaires et donc on espère mener un combat contre l'antisémitisme d'une part à l'extrême gauche pour remettre cette question devant parce qu'on estime qu'elle est trop souvent oubliée et qu'on n'en parle plus alors qu'en fait les violences antisémites aujourd'hui ça arrive tous les jours. En janvier il y a des gens qui se sont fait assassiner parce que juifs, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines il y a des croyants et un rabbin à Marseille qui se sont fait agresser au couteau parce qu'ils étaient juifs. Le MAFED, donc les personnes qui sont à l'organisation de cette marche et à l'initiative nous ont contacté pour qu'on en fasse partie. Tout ce qu'on a envie de mener, c'est un combat antiraciste. On vise particulièrement l'antisémitisme, mais on pense que le combat contre le racisme, ça doit se faire au sein d'un front large et contre tous les racismes en même temps.
Je suis française, afro-descendante, queer, musulmane, victime de violences sexuelles et physiques, mais survivante. Et je fais partie du collectif afroféministe et intersectionnel, Moi-ci. Notre définition de la dignité à nous, femmes et non-binaires, noires, africaines et afrodescendantes, est simple. Pas de compromis. Nous ne manquons pas de raison de marcher ici aujourd'hui et tous les jours d'ailleurs. Nos luttes sont multiples et inextricablement indéménables les unes des autres. Ensemble, nous clamons notre dignité. Face aux violences d'État, nos colères sont plus que légitimes. Cette colère, héréditaire pour bon nombre d'entre nous, nous souhaitons y mettre fin. Nous y mettrons fin, non pas en nous taisant, mais au contraire en la transformant en action. N'ayons pas peur des mots, il s'agit du racisme, de l'islamophobie, du sexisme, du validisme, de la transphobie, de la lesbophobie. Nous subissons également très lourdement les violences de classe. Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des résistantes. Nous résistons au néocolonialisme et au système hétéro-blanchiarcal.
Je suis partie du groupe Lox. Le groupe Lox a été fondé en 2009. On est un groupe composé de lesbiennes qui partagent tout un parcours, une histoire liée à l'immigration, à la colonisation. Et donc, en fait, nous, le cœur de notre lutte, c'est de croiser les luttes, de dire que ben, nous, on est lesbiennes, certes, mais on est aussi issus d'un parcours migratoire, de l'exil, etc. Et donc, on subit aussi le racisme. Et on se retrouve souvent ballotté, en fait, où... dans les groupes antiracistes, le lesbianisme n'existe pas. Et dans les groupes féministes, la question du racisme, il ne faut pas, absolument pas l'aborder. Nous, on se retrouve là-dedans et ce qu'on essaie de faire, c'est toutes ces luttes-là, en fait, qui voilà, pour nous, doivent être articulées. Le sens pour nous d'être ici, c'est justement cette question du racisme, de l'impunité des forces de police et aussi d'affirmer et d'être toujours visible en tant que lesbienne. Pour nous, c'est très important, même dans les luttes antiracistes et encore plus dans les luttes antiracistes.
On les veut soumises, on les veut obéissantes, on les veut violentées par leur mari, leur père, leur frère, tout ce que vous voulez. On les veut objets sexuels, on les veut objets tout court. Les femmes que vous voyez aujourd'hui disent non, disent elles sont actives. Elles sont insoumises, elles sont insolentes, impertinentes, solidaires. Elles respectent leurs frères et jamais, au grand jamais, elles ne se désolidariseront d'eux. La lutte de nos frères, la lutte contre les violences policières, la lutte contre le racisme d'État, c'est notre lutte à nous aussi.
Dix ans après, tu peux faire le constat, très peu de choses ont changé. Ramène, renoue alors si on est toujours des étrangers. J'ai abandonné l'idée qu'ils me perçoivent un jour comme un français. Mais je n'abandonne pas l'idée que l'État français me doit le respect. Je l'ai déjà dit, le respect n'est pas une chose qui se mendie. La dépendance a un prix, souvent trempé de sang sur les drapeaux brandis. Val de meurtre où j'ai grandi, la violence nous heurte, on va rester en vie. On n'a jamais rien attendu de l'État, alors quoi, on va pas commencer aujourd'hui. S'il y a des bonnes, de la gauche et la droite, ils sont plus frais contre les marques. De Sarkozy en passant par des ans jusqu'à son premier tour de Cahuzac. Et c'est les mêmes qui voudraient faire la leçon aux petits frères qui sont dans la marque. On va les flics pour mater leur rébellion à coup de matraque. C'est nous qu'ils accusent sans cesse d'avoir pillé le pays. Alors qu'ils tapent dans la caisse, ne font jamais ce qu'ils ont promis. C'est les gens du mat, ils envoient les condés défoncer ta porte. Ils se rendent au tribunal en voiture de fonction sous escorte. Ils n'ont jamais connu la crise. Ensuite s'étonnent que le peuple se rebelle, les pourchasses leur arrachent leur chemise. Y'a pas que les noirs et les arabes, ce sont tous les pauvres qu'ils méprisent. Lorsqu'ils nous parlent de l'islam, ils espèrent que ça nous divise. On cherche des solutions, ça se verra. Pour l'instant, vous ne faites que fabriquer des futurs mères. Votre mépris du peuple est flagrant, il se paiera. Je vous vois à l'assemblée, on dirait un opéra.
News FM. News FM. Monte le son.
Waouh. Psahtek.
Vous êtes toujours à l'écoute de Micro-ondes, l'émission qui vous tient à contre-courant sur News FM 101.2. On vient d'écouter un reportage sur la marche pour la dignité et contre le racisme qui a eu lieu à Paris le 31 octobre dernier. À la fin du montage, vous avez pu entendre le titre Ziad et Bouna de Kerry James. Donc vous aurez sans doute remarqué que c'est pas un son qui est masterisé encore, c'est une version de travail. Et c'est une chanson qu'il a écrite après avoir assisté à un événement pour les 10 ans de la mort de Ziad et Bouna. Donc voilà, peut-être on vous la repassera quand elle sera masterisée. Et sur le plateau avec nous, on retrouve nos deux invités, Chacha et Kenja, du collectif De la Dignité et contre le racisme 38. Et du coup, on a bien remarqué que votre nom ressemblait beaucoup au nom de la marche qui s'était passée à Paris. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire c'est quoi vos liens avec notamment le collectif Mafed qui a organisé cette marche ?
Oui, bah, on a pris le nom de la marche parce que ça allait plus vite. Comme on vous a dit, après la fusion des deux collectifs, on a choisi ce nom qui est un peu long pour un nom de collectif, mais qui montrait bien nos objectifs. C'était à moyen terme, enfin à court terme plutôt, d'aller à la marche de Paris, de la dignité et contre le racisme. On a entendu dans le montage qu'on était remercié par la MAFED, donc le collectif de femmes à l'initiative de la marche. Donc c'est nous qui les remercions aussi, il faut bien... envoyer ça. Donc MAFED, en fait, ça veut dire... c'est un acronyme bizarrement fait pour dire Marche des femmes pour la dignité. Enfin, bizarrement fait. Vous voyez, MAFED. Voilà. Et en fait, ça a été dit dans le montage que c'est donc un collectif composé exclusivement de femmes. En fait, elles ont répondu à l'appel de Amal Bentounsi, la sœur d'Amin Bentounsi, qui a été tuée d'une balle dans le dos par un policier à Noisy-le-Sec en 2013, et qui a lancé un appel à une marche de la dignité au printemps dernier, justement, quand les policiers ont été relaxés dans la mort de Ziad et Bouna, par rapport à la mort de ces deux ados. Et elle a appelé à une marche pour l'automne, pour commémorer les 10 ans des révoltes, en partie. Et du coup, il y a plein de femmes qui se sont formées en collectif, et elles ont comme particularité d'être des femmes qui subissent le racisme. Elles sont de plusieurs origines, comme il y a des profs, il y a des intellectuels, il y a des militantes de quartier, il y a des artistes, elles font plusieurs activités, mais on pourrait dire qu'elles ont... On dirait qu'il y a un triple stigmate, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois des femmes, souvent de milieu populaire, et subissant le racisme. À savoir la négrophobie, l'islamophobie, la romophobie ou ce qu'on appelle aussi l'anti-tsiganisme contre les tziganes. Et du coup, en fait, il y a une personne de la MAFED qui vient de la région Rhône-Alpes, qui est entre Grenoble et Lyon. Et donc, c'était très bien parce que du coup, on avait des nouvelles directes de Paris. Elle est venue à nos réunions, nous dire comment ça se passait, dire qu'on organisait un bus et tout ça. Donc, du coup, il y avait un lien entre Grenoble et Paris. Après, donc ce bus, on avait vraiment envie d'organiser un départ collectif et pas d'y aller individuellement, et que ce soit des gens qui ne sont pas les militants, militantes classiques qui puissent monter à Paris. Donc on voulait que le départ se fasse collectivement et qu'on s'entraide financièrement. Donc après avoir étudié plusieurs choix, et je pense que nous pouvons monter une société de consultants en transport Grenoble-Paris. Bravo. Nous avons donc porté notre choix sur une compagnie dont nous tairons le nom, pour ne pas faire de publicité pour les transports polluants. Mais on a choisi le départ en bus pour rester ensemble, en fait. Et pour ça, il nous fallait de l'argent.
Et oui, alors où est-ce que vous avez trouvé cet argent ?
Cet argent, où est-ce qu'on l'a trouvé ? Eh bien, par des dons de particuliers, des associations. Et il y a une forte mobilisation pour faire des vides-greniers. Pareil, hein, je pense qu'on devient un petit peu spécialiste des brocantes. Il y a des gens qui ont vendu des boissons. Et du coup, on remercie ici toutes les personnes qui ont porté des objets, préparé du bissap, du café, donné de l'argent. Voilà. Et on a réuni les levées, si je puis me permettre, nécessaires à la location d'un bus de 60 places. Et aussi pour préciser qu'à Paris, il y avait une centaine de personnes qui venaient de Grenoble, puisqu'il y a des gens qui sont venus par d'autres moyens que le bus loué.
Donc nous, moi, comme je disais tout à l'heure, c'est à ce moment que j'ai un peu rejoint le collectif. J'avais des informations parce que je vis en coloc chez Martine, que tout le monde connaît. Voilà, Martine qui est voilà, notre maman à tous. Et donc j'avais des informations. Et je suivais un peu les choses. Et plus ça allait, plus j'étais emballé. Et du coup, donc voilà, on est parti le matin. C'était avant l'aube, bien avant l'aube. Et voilà, dans ce bus, je découvre en fait ce que j'attendais déjà depuis un moment, parce que il y en a marre aussi de lutter toujours avec des gens qui vous ressemblent, alors qu'on voit bien que cette société, elle est faite de voilà de rencontres, de partage, de gens différents. Et dans ce bus, eh ben c'était ce que j'ai rencontré aussi à Paris parmi les marcheurs, des femmes, des hommes, des noirs, des blancs, des arabes, des juifs, des palestiniens, des de tout. Et moi, je pense que c'est ça qui est important, parce que c'est ça la France. Et j'avais envie de me retrouver dans cette ambiance avec des gens aussi, quand même, pour l'essentiel, qui viennent de milieux qui souffrent, de milieux qu'on veut rendre invisibles ou qu'on veut rendre silencieux, de gens qui sont dans les couches enfouies de la société. Et puis décide d'exister, de montrer qu'on est là et de manifester, parce que manifester, c'est manifester sa détermination. Et notre détermination là, c'était vraiment qu'on entende nos voix pour une fois sur le pavé, dans la rue, dans la République, qu'on entende nos voix, qu'on mesure nos présences, que c'est pas rien. Et franchement, merci pour ce document, parce qu'il rend bien compte de la diversité, du mélange, et vraiment que voilà. Et moi, je suis content que mes frères musulmans aient pu exprimer vraiment leur ressenti, leur vécu, parce que là, ils sont en train de subir vraiment quelque chose de dur, que les femmes aient pu parler avec cette détermination, justement.
Et à propos des collectifs qui étaient présents, je tiens quand même à signaler qu'il y a deux collectifs qui ont beaucoup joué sur le dynamisme de cette marche, dont on entend beaucoup les slogans et que malheureusement on n'a pas pu avoir en interview. C'est le FUIQP et Femmes en lutte 93. Mais ne vous inquiétez pas, on les retrouvera dans cette émission à d'autres occasions, c'est promis.
Merci. Donc en fait, voilà, le sentiment de vivre un moment historique à la même hauteur qu'a été cette marche de 83 pour l'égalité, qui était partie de Marseille et qui avait rejoint Paris, et que le film récent, dont le film récent témoigne, mais pas avec autant de ferveur que ce que nous sommes en train de faire renaître, parce que là vraiment on a pris conscience de notre force, de notre place, et voilà, on pourra pas faire sans nous, et on a beau crier toute espèce d'état d'urgence, c'est nous l'état d'urgence, c'est nous qui sommes en urgence. Et c'est nous qui sommes au cœur de l'État. Et donc là, voilà. Moi, ce que j'ai aimé, c'est le partage des générations. Voilà. Et d'ailleurs, on va écouter un montage avec des jeunes qui sont venus avec nous dans le bus. Et je crois que ça parle de lui-même, quoi.
Je suis en compagnie de plusieurs jeunes gens qui sont venus dans le bus de Grenoble et qui ont participé à la marche de la dignité et contre le racisme à Paris. Voici donc...
Iman, 17 ans, étudiante.
Kassim, 12 ans.
Jalal, 10 ans.
Sakina, 15 ans, lycéenne.
Qu'est-ce que ça vous a fait comme sensation de marcher avec tout ce monde de Barbès à Bastille à Paris?
Ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir.
Mmh. Ça apporte un sentiment d'appartenance et d'identité qui n'est pas forcément automatique. On sent à notre place en tant que Français, comparé à peut-être la vie de tous les jours.
Ça fait un peu de la peine pour les gens qui ont été touchés, pour leur famille. Par exemple, ici, Débouna, Alizéry.
Amine Nadouci.
Touchés par quoi?
Les violences policières.
Injustifiées.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'ils n'avaient rien fait de mal et c'était juste un mauvais moment.
Qu'est-ce qui vous a le plus plu?
C'est au début quand des femmes, ils parlaient au micro sur un camion.
Les femmes qui ont parlé à la fin, ça m'a tout touché.
Et toi?
L'histoire de ces femmes, de leur famille, de ce qui s'est passé, comment elles parlaient, la façon dont elles s'exprimaient, c'est, je sais pas, on accrochait à leur discours.
Qu'est-ce qui vous a le moins plu?
Les deux gars qui chantaient. Pourquoi? Sur le camion, là.
Pareil, à la fin, pendant les concerts. Ouais. Ils chantaient n'importe quoi.
Ils disaient, ta mère va venir à mon enterrement. Et en plus, ils chantent ça, et en fait, il fait nuit, ils ont des lunettes de soleil.
La mère, elle est en train.
Et à part ça, qu'est-ce qui était négatif dans cette journée?
La lenteur de la marche.
J'aurais aimé que ce soit un peu plus rapide.
Avec plus d'animation. Dans les moments de pause, bah, il n'y avait pas forcément plus de discours ou d'animation que ça.
Qu'est-ce que tu aurais vu comme animation?
De la Vaticana.
Les percussions brésiliennes?
Ouais, ça a toute sa place ici. Déjà parce que c'est brésilien. Ensuite parce que c'est un art de la rue.
Et toi, je sais que t'en fais. La prochaine fois, t'amènes ton groupe?
Ouais. Après, il y a des parties du cocktail spécifiques. C'était vraiment tout le temps la fête. Tout le temps, il y avait l'ambiance.
Le groupe de Lille. Ouais. Qui avait une bonne ambiance.
Alors, le FUIQP de Lille.
Ouais, ça faisait chaud au cœur de voir autant de gens qui mettaient de l'ambiance pour cette cause.
Ils vous ont bien plu, moi aussi.
Avec un drapeau de l'Algérie, la Tunisie, la Palestine.
Vas-y, la Palestine, c'était...
Le meilleur. Ouais.
Vous avez déjà fait des manifestations à part celle-là?
Moi, oui.
Et est-ce qu'il y avait une différence entre celle-là et d'autres?
Il y avait beaucoup moins de monde, déjà, dans celle que j'ai faite.
Vous trouvez que celle-là, il y a plus de monde?
Oui, dans celle-là, il y avait beaucoup.
Il y avait de la vie, des gens qui venaient des quatre coins de la France, de Lille, Marseille, Paris, Grenoble, Lyon.
Il y avait un public plus large que ce qu'on peut voir dans certaines manifestations.
Pourquoi c'était important de participer à cette marche?
Ça pouvait peut-être faire changer d'avis le président, le maire, la police.
C'était important parce que c'était quelque chose que les politiques peuvent qualifier de communautaire. Et en fait, pour leur faire comprendre que ça n'a rien à voir. Eux qui font la chasse aux communautaires et... de voir qu'on est beaucoup à se battre et que en France, c'est pas que les bobos, les bourges, les beaux quartiers. C'est pas que ça, la France.
Pour moi aussi, je suis sûre que ça ferait chaud au cœur que si tous les gens qui ont été tués par la police et tout, ils seraient vraiment contents.
De voir qu'on se mobilise pour eux.
Est-ce que vous avez rencontré d'autres gens pendant la marche?
Moi, j'ai rencontré des gens du groupe de Grenoble que je connaissais pas. Donc, on a beaucoup discuté des origines, des âges, des voyages que pourraient faire les uns les autres. Et le feeling, il est passé directement. Après cette grande marche, on a plus facilité à parler avec d'autres gens qu'on pense qu'on n'aurait jamais adressé la parole. On a vu dans le bus de Grenoble, on venait un peu de partout, en fait. Il y avait Algériens, une Éthiopienne.
Il y avait Marocains.
Elle est d'origine de la Somalie.
Somalie, Italienne, Guinéenne, Martinique.
La Guadeloupe.
Surtout des gens de l'Afrique.
Parce que la plupart des gens touchés par la police...
C'est les Noirs et les Arabes.
Et pourquoi?
Parce qu'il y a du racisme.
Ah bon?
Oui, il y en a beaucoup.
Il n'y a que les Noirs et les pratiquement que les Noirs et les Arabes qui sont touchés, mais en fait...
Et les Asiatiques.
Mais en fait, ça se passe un peu partout dans le monde. En Amérique, en Europe, même en Afrique. Les Français sont en Afrique, par exemple. Ils ont dominé la vie.
Qu'est-ce que vous avez aimé dans le concert?
Bon, franchement, je trouve que c'est pas spécialement Kerry James. Mais après ce concert, j'écoute souvent Kerry James.
Bon, moi, il y avait D6 que je connaissais déjà. Il y avait des musiques que j'aimais déjà de lui. Comme avant, dans sa musique, il dit « je pète les poumons ». J'avais bien aimé ça.
Moi, c'est Tunisiano. Les paroles de ses musiques, sa voix, enfin, la façon qu'il a de s'exprimer.
Medine, pour moi, c'est un artiste que personne n'aime parce qu'il dit la vérité et parce qu'il prend partie des personnes dont on ne prend jamais de partie. Sa musique dérange, donc elle passe pas sur les médias. Pourquoi Medine, il faut vraiment aimer la bonne musique, le bon rap.
Est-ce qu'il y a des slogans que vous avez appréciés?
Ta mère va venir à mon enterrement.
Morano, t'es foutu. Grenoble est dans la rue.
Sarkozy, ta race, Morano, à la casse.
Ziyed, Bouna, on n'oublie pas.
On reconnaît les musiciens. Voilà, merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Écoute ta radio où tu veux, quand tu veux.
www.radionewsfm.fr.
Mais le problème, il est juste ici.
Vite, vite. Ah, ça y est, nous revoilà sur le plateau. Alors, désolé, peut-être vous avez eu également ce gros Larsen dans les oreilles, comme on vient de l'avoir.
C'est la force, la puissance de l'interview, là. C'était...
Wow. Donc merci beaucoup pour ce montage qui a été effectué par Chacha qui est avec nous sur le plateau. Donc on retrouve Chacha et Kenja du collectif de la dignité contre le racisme 38. C'est super précieux d'avoir ces paroles-là de ces ados ouais, ou toujours plein de trucs à dire quoi, on les entend vraiment pas assez. Alors pour revenir sur notre discussion de tout à l'heure, donc par rapport à cette marche qui a eu lieu à Paris le 31 octobre, on a parlé tout à l'heure de comment ça s'inscrit un peu dans, je sais pas, une suite ou une réponse à la marche de 83. Et cette marche, bon bah on sait qu'un des problèmes, c'est qu'elle a été beaucoup récupérée par les pouvoirs politiques. Et là, il y a vraiment une volonté claire qui est affirmée et qu'on entend aussi dans les interventions après la manif, de pas se laisser récupérer, de rester indépendant par rapport aux institutions et à l'État finalement.
Bah oui, du coup les gens depuis 83, la récupération par le Parti socialiste des luttes antiracistes ont été vaccinés. Et du coup, on peut remarquer ça dans la façon dont se forment beaucoup de collectifs actuellement, c'est l'autonomie par rapport aux partis traditionnels, aux partis politiques même, pas que traditionnels d'ailleurs, ils peuvent être récents, et que ce soit la parole des personnes concernées en fait qui prime et c'est elles qui fixent les modalités d'action et l'agenda. Et après, les personnes et les partis qui veulent suivre potentiellement peuvent suivre les mouvements et les luttes, mais ils ne sont pas ni porteurs ni récupérateurs. Et on voyait bien dans la marche que du coup, il y avait la MAFET devant, plein d'organisations de personnes directement concernées par les discriminations raciales. Et ensuite, à la fin, les partis, et on voit qu'il n'y avait pas beaucoup de gens dans chaque parti qui étaient prêts à venir dans les conditions fixées par les femmes de la MAFED. Et ça, on va continuer de faire des choses comme ça.
C'est clair.
Et pour revenir à ce que vous faites à Grenoble, et ben justement, qu'est-ce que vous proposez avec ce collectif? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Qu'est-ce que vous prévoyez pour l'avenir?
Ben en fait, comme vous avez compris, on est un collectif assez récent et on construit en se construisant. Mais pour autant, ben, on n'a pas cessé et chaque fois, il y a eu des actions. Donc le mois dernier, par exemple, on a organisé une projection sur ce film qui a tué Al-Iziri. Al-Iziri, c'est un grand-oncle qui a été assassiné lâchement chez lui, à son domicile, dans des conditions vraiment pas claires, lors d'une intervention de police. Et il y avait plein de déclarations sur le fait que son cœur avait lâché et tout. Et après une enquête, après vraiment des luttes de la famille, on a bien compris que c'était pas aussi clair que ça. Et donc, on a invité et reçu Luc de Caster. On a organisé une projection au club où il y avait 80 personnes à peu près. Et donc, on a pu organiser ce débat, ces échanges. Et aussi, on a pu envoyer des fonds au comité qui est à Paris. Parallèlement, on a monté aussi ce qu'on appelle des ateliers de décryptage des médias. C'est-à-dire qu'on est en train c'est quelque chose qu'on est en train de construire, mais on veut vraiment partager avec les gens des quartiers cette réalité déjà qui était apparue lorsqu'ils avaient fait, l'Antenne 2 avait passé ce fameux reportage sur la Villeneuve, et on avait bien vu que ça reflétait pas du tout nos réalités, et que maintenant il fallait aussi apprendre aux gens apprendre non, parce qu'on n'a rien à apprendre à personne, mais il fallait vraiment partager ensemble autour du fait que nous sommes manipulés, que il y a des techniques pour ça, il y a des manières de faire qui nous faut apprendre à décrypter ensemble. Et puis et on est tout de suite plongé dans l'actualité avec cet état d'urgence, et aussi on poursuit notre élan depuis le 31, parce que nous on est revenu avec le sentiment d'avoir vécu un moment historique et que le soufflet il pouvait pas retomber. Donc que faire, vers quoi aller? Donc je vous annonce que nous, les membres du collectif, on a décidé de rejoindre le FUUQP, dont vous avez abondamment entendu parler lors de différents...
Peut-être on n'en a pas assez entendu parler. Déjà, est-ce que tu peux dire ce que ça veut dire FUUQP?
FUUQP, voilà.
C'est le Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires.
Et moi ce que j'aime, c'est des immigrations avec S, des quartiers populaires. On sait que les quartiers populaires, mais voilà, c'est nous tous avec S. Et c'est un front, c'est pas un parti, c'est un regroupement vraiment de gens qui ont en eux chevillé le désir vraiment de lutter contre les discriminations, contre toute espèce de discrimination, l'islamophobie, l'arabophobie, la négrophobie, les discriminations de sexe, de genre, de classe. Parce qu'il ne faut pas non plus oublier la lutte sociale. Et on a beaucoup de pain sur la planche, mais en tout cas, on est décidé. Puis c'est un mouvement qui est en train de prendre de l'ampleur, quoi.
Donc le FIUQP, c'est, comme tu dis, c'est une organisation qui, en fait, recoupe des comités locaux dans les villes de France. Donc on a vu, les jeunes, excusez-moi, on en parlait dans le montage, il y a le groupe de Lille qui est particulièrement actif, et du coup nous on serait le FUIQP 38. Voilà. Donc du coup, pour nous joindre, voilà, comme c'est en formation, pour l'instant, il y a encore le Facebook du collectif de la dignité et contre le racisme 38. Mais regardez bien, peut-être aussi sur Internet, il y aura, vous trouverez bientôt le FUIQP 38. En tapant sur un moteur de recherche, vous choisissez. Et voilà, donc du coup, c'est une organisation voilà, en groupes locaux et horizontaux qui sont reliés entre eux, qui a 10 grands axes, une charte à laquelle on peut adhérer, mais qui sont des points très larges qui concernent l'antiracisme, l'anti-impérialisme, l'antisexiste, comme on a dit. Et du coup... Mais du coup, quoi? La situation est excellente.
Non, mais juste pour dire.
On va faire ça.
À ceux qui veulent en savoir plus, que samedi 19, voilà, à la MJC d'Esnos à Échirol, on va lancer, on va faire une restitution de la journée du 31 de la marche de la dignité. Et aussi, on va commencer à échanger avec vous sur la création de ce FUIQP 38.
Voilà, donc vous venez pour en parler. Notre problème, juste, c'est qu'on n'a pas encore l'heure. Mais
on vous fera savoir, de toute façon, on fera savoir à tout Grenoble que samedi 19 à la MJC d'Esnos de Girol, voilà, le FUQP est là dans la place.
Eh bien,
et
merci.
On le relayera
beaucoup
aussi sur le Facebook de News FM.
Ah oui, si on arrive à tenir notre Facebook comme il se doit, mais on est un peu novice. Voilà, bon. Merci beaucoup à nos invités. Vous êtes invités à rester sur le plateau, évidemment, jusqu'à la fin de l'émission. Mais en tout cas, c'est terminé pour cette première partie sur vous, finalement, et sur la marche qui a eu lieu à Paris le
31 octobre. Merci à vous.
Et on se retrouve bientôt, sans doute, pour parler du FUIQP ou d'autres choses.
Merci beaucoup.
Dans le marasme actuel, dans le matraquage médiatique, il est difficile d'échapper à la propagande guerrière et raciste. En fait, moi, depuis quelques semaines, je ressens un malaise. Et en général, quand je ressens un malaise, c'est qu'il y a manipulation. Et du coup, là, avec ce groupe-là, on a essayé de récupérer un petit peu notre sang-froid et de mettre un peu à l'écart les émotions et toutes les images qu'on nous renvoie pour reformuler nos propres analyses sur les attentats du 13 novembre. Et notamment en mettant à l'écart en fait tous les arguments argumentaires, tous les arguments sécuritaires et guerriers qui sont dirigés contre les musulmans, qui auraient basculé vers le terrorisme, ou sans ces idées nauséabondes que leur religion porterait le germe de cette barbarie en fait. On refuse de voir que d'un côté il y a des actes barbares et que de l'autre côté il y aurait des pays démocratiques. Parler de barbarie, ça revient à faire des pays occidentaux des peuples civilisés, et ça on le refuse. Nous serons loin aussi de toutes les théories du complot. On sera loin des discours qui viendraient relativiser aussi la gravité des tueries, parce qu'on les entend aussi, ces discours-là. Parce que nous condamnons évidemment ces attentats et nous apportons notre soutien aux victimes du Bataclan, mais aussi notre soutien à toutes les victimes de cette guerre. Et c'est d'ailleurs de cette guerre qu'on va parler et on va essayer de l'analyser. Parce que cette guerre, nous l'avons pas choisie et aucun peuple ne l'a choisie. Et pourtant, elle sème des milliers de morts depuis de nombreuses années. Alors, dans un premier temps, on va revenir sur ce qu'on a appelé la fabrication du terrorisme. En fait, revenir sur ces enjeux économiques, politiques qui sous-tendent cette guerre qu'on nous a annoncée là et qui, je le rappelle, n'est pas la nôtre. Ensuite, avec Yemenja, dans un deuxième temps, on viendra décrypter le traitement médiatique de ces attentats. La collusion média-politique qui fabrique un discours islamophobe et surtout toutes les injonctions données aux musulmans à être des bons musulmans. Ça, on le refuse. Et en troisième partie de ce sujet, en fait, on abordera avec Yvon, Ernest et Roselyne la manière dont sont instrumentalisés les attentats, en fait, pour proclamer un état d'urgence et les conséquences que cela a sur bon nombre de gens et sur le recul de nos libertés. Alors, comment fabrique le terrorisme? Quels sont les enjeux qui sous-tendent cette guerre? Qui déclare la guerre à qui? Alors, en fait, on pourrait passer presque 3 heures de réunion pour parler de ça. Et du coup, ça va être difficile de résumer. Nous, on a essayé de repartir sur... Peut-être, on a essayé de prendre un petit peu de distance, de revenir un petit peu sur des dates historiques. Parce qu'on n'est pas dupes, en fait, de ce qu'on nous sert là en ce moment. Alors, pour comprendre ces attentats, en fait, on pourrait, par exemple, revenir en 1918. En 1918, il y a eu des accords franco-britanniques, en fait, qui ont tracé les frontières futures de ce qu'on connaîtra, de ce qu'on connaît comme l'Irak, la Syrie, le Liban, la Jordanie, le Koweït, etc. Alors là, c'est l'époque des colonies, avec toute une manière de s'investir dans les pays, de récupérer le contrôle sur les populations, sur l'État, et en faisant des pseudo-démocraties à l'intérieur, mais en fait en gardant le contrôle et en exploitant les matières premières. On pourrait revenir là-dessus, mais aussi on pourrait faire partir ces attentats en 1948, avec la création de l'État d'Israël. On pourrait aussi dire que c'est un déclencheur. En fait, des déclencheurs, on verra qu'il y en a tout le temps. Et que c'est toujours l'Occident qui est en position de déclencheur de ces guerres. On peut aussi... donc là, moi, j'ai choisi de choisir, par exemple, 91. 91, on a des images dans la tête. Peut-être qu'on les mélange toutes, en fait, en fonction des guerres. On dit toujours qu'il y a des guerres loin. Et c'est en Afghanistan, c'est en Libye. En fait, en 91, c'est Washington qui conduit une coalition avec tout l'Occident et l'Arabie Saoudite dans une guerre contre l'Irak. Et en parallèle de cette coalition et de cet assaut contre l'Irak, se met en place un embargo sur le pays, donc un autre initiative, nous occidentaux, qui durera presque 10 ans, hein, et qui causera en fait la mort de plus d'un million de personnes, dont 500 000 enfants. Donc voilà, les morts de ces guerres sont d'abord aux colonies, et puis il y en a tout le temps en fait. Donc il faut savoir que en 91, c'est le régime de Saddam Hussein qu'on veut abattre, mais avant 91, Saddam Hussein, on lui a serré la pince. Et Saddam Hussein, on l'a médiatisé comme étant un espoir pour l'Irak et pour le Moyen-Orient. Et on l'a armé, on lui a filé du fric. Et pourquoi en fait? Parce que il fallait qu'on se positionne aussi contre l'Iran, et on avait besoin de Saddam Hussein à ce moment-là pour affaiblir l'Iran. Et du coup, là, on fait une pierre deux coups. On affaiblit l'Iran, et puis 91, on affaiblit Saddam Hussein, on le fait passer pour un tortionnaire, ce qu'il est en l'occurrence, ce qu'il est devenu. Mais il y a au nombre de morts, on est aussi des barbares dans ces cas-là. Bon, ça c'est 91. Après, on pourrait parler de 2002. Alors là, c'est 2002. J'en oublie hein, des guerres. Hein. C'est triste, mais en 2002, c'est la guerre en Afghanistan qui est menée par l'OTAN. Et là, c'est aussi sous l'égide des États-Unis. Et guerre en Afghanistan, la France finira par y aller aussi. En fait, cette guerre en Afghanistan, à un moment donné, on a armé en fait des groupes. C'est à partir de là que va naître notamment les groupes Al-Qaïda, hein, qui sont des premiers groupes à un moment donné qu'on arme nous occidentaux pour lutter d'abord contre les Russes, l'invasion russe en Afghanistan. Et en fait, on se disait que les gens sur place, hein, qui étaient en révolte, et l'armée, notamment celle de Massoud, du commandant Massoud, qui se mettait en place, on lui faisait pas confiance. Bon, il était peut-être un peu trop démocratique, en fait, peut-être, tout ça. En tout cas, Massoud, on a toujours dit qu'il faisait des choses bien, mais concrètement, c'est pas lui qu'on a armé, c'est des groupes qui sont devenus par le futur Al-Qaïda. Voilà, que dire encore je rappelle que Massoud, en fait, il est mort 2 jours avant les attentats du 11 septembre et que personne n'en a parlé. Bon, c'est aussi tout lié, tout ça. Et je parle pas de complot, je parle d'une manière de fonctionner du capitalisme qui vient à chaque fois détruire des États. Et c'est pas du complot, c'est une logique capitaliste qui induit ça dans son fond. 2003 aussi, pourquoi pas, 2003, la guerre des États-Unis, deuxième guerre des États-Unis contre l'Irak. Alors là, on fait tomber Saddam Hussein. Complètement, et d'ailleurs sa pendaison complètement orchestrée, qu'on a tous vu ça sur les images dans nos médias, c'était absolument atroce. Elle a été largement encouragée par les États-Unis, qui sont venus s'offusquer ensuite pour démonter tout ce qui pouvait se reconstruire en Irak, en disant que le régime avait mis à mort d'une manière dégueulasse Saddam Hussein. Bon, aux États-Unis, la peine de mort n'est pas aboutie partout. Bush avait des propos sur la peine de mort qui laissaient quand même à désirer. Bref, toute cette médiatisation nous sert un discours sur lequel on n'est pas dupe. Ah oui, et on se contente pas en fait de bousiller Saddam Hussein et de bombarder la population. On laisse aussi toute l'administration du pays en échec. C'est-à-dire tout a été bousillé avant de partir. Ce qui fait que quand les États-Unis partent de l'Irak, il y a plus rien qui est possible, plus rien qui fonctionne. Donc le pays se retrouve complètement à l'abandon, zone abandonnée, et qui va se retrouver avec des groupes qui vont monter des marchés, qui vont s'organiser, du banditisme en fait, et qui vont semer la terreur. Et là aussi, on a l'introduction de groupes islamistes qui au départ sont en fait tout simplement des groupes qui prennent du pouvoir sur le territoire, qui font du commerce, et qui à un moment donné arrivent à récupérer cet argument de religieux pour semer la terreur, entre autres. Ça c'est l'analyse que je fais. Bon, je vais pas être trop longue, mais en fait j'ai tellement de choses à dire. Il y a 2010 aussi. 2010, ça c'est la France de Sarko qui mène le même cadeau en Syrie, en Libye pardon, parce que en Syrie c'est un petit peu la même chose, même schéma. Syrie c'est l'année suivante, hein, c'est 2011. Les États-Unis, leurs alliés mènent une guerre cachée en fait contre la Syrie en fournissant des armes ultra modernes à des groupes islamistes et pour combattre Assad. Alors là, ce groupe islamiste, c'est plus Al-Qaïda, c'est ce qui va devenir l'État islamique, ce qu'on appelle Daesh. Et ces mêmes groupes recevront de l'Arabie Saoudite et des États arabes du Golfe des milliards de dollars pour le recrutement de leur armée. Et donc ça donnera des groupes qu'on appelle donc nous Daesh, État islamique, ou le Front Al-Nusra. Et c'était effectivement, on pourrait dire aussi qu'il s'est passé exactement la même chose en Afghanistan, la même stratégie pour détruire l'État en Afghanistan dans les années 70 et 80. Et même chose que ce qui s'est passé pour l'Irak, l'Union européenne impose, c'est pas l'Union européenne, c'est les Nations unies qui imposent à la Syrie un embargo au pays, soi-disant pour détruire le régime d'Assad, mais en fait ça détruit tout simplement toute la population, ça la disloque, parce que cet embargo va causer à peu près 220 000 morts, et encore ça c'est des chiffres que j'ai récupérés, mais je suis sûre qu'il y en a d'autres. Voilà, et ça va détruire toute l'économie de la Syrie. On est en 2011, et il faut savoir qu'à la même époque, à la même période, il y a ce qu'on appelle les révoltes des jeunes qui portaient de l'espoir en Tunisie, en Libye, en Égypte, au Maroc, au Yémen, ce qu'on a appelé en fait le printemps arabe. Et en fait, pendant cette période en 2011, ces révoltes qui portaient vraiment des espoirs ont été réprimées par les États dictateurs qui avaient été soutenus avant par les États-Unis et l'Occident, et qui avec qui on commerce, par l'État islamique qui a pu avoir sa place grâce à notre argent, notre armement et notre commerce, et par la France qui a continué à armer ces dictatures, ce qui a permis de manière détournée de réprimer ces révoltes et d'éteindre en fait tout ce qui était porteur d'espoir dans ce printemps arabe, qui n'est pas complètement éteint non plus, faut pas délirer. Voilà, en 2012, donc juste après, il y a la Syrie qui est donc après qu'on l'ait armée, etc. En 2012, la Syrie, elle est carrément attaquée par Al-Qaïda et l'État islamique, qui sont forts de leurs dollars et de leur armement. Et à ce moment-là, ces groupes sont présentés, juste pour rappeler dans nos médias, comme ceux qui faisaient du bon boulot, en fait, contre le régime d'Assad. Je sais plus quel politique avait dit ça. C'est une phrase qui m'avait marqué, ils font du bon boulot.
Et puis présenté aussi comme les forces démocratiques.
Et présenté comme les forces démocratiques, ouais. Bon, c'est un peu long tout ça, parce qu'il y a encore une autre partie. Mais tout ça pourquoi, en fait, dans ce... Là, je vais m'arrêter un petit peu sur toutes les dates, etc. Et puis essayer de prendre le temps d'analyser tout ça pourquoi. Pourquoi ces interventions de l'Occident et pourquoi ces millions de morts? Alors, en fait, en se posant, on peut essayer de réfléchir à... D'abord, il y avait le colonialisme. Mais le colonialisme, il portait ses fruits, hein, en termes de placement géopolitique, en termes d'accès aux matières premières. Mais il avait aussi ses propres limites. Parce que les États occidentaux, en tout cas, c'est l'analyse qu'on peut en faire là, nous, c'est que les États occidentaux, dans les... dans les colonies, en fait, sont aussi obligés, finalement, d'apporter la pseudo-démocratie, de faire des pseudo-élections, de mettre des pseudo-institutions en place, etc., tout en gardant le contrôle sur les États, tout en gardant le contrôle sur les populations et tout en veillant bien à ce qu'il n'y ait pas de mouvement, de révolte, etc. Et du coup, il faut bloquer ça. C'est trop d'énergie. Et du coup, au Moyen-Orient, nouvelle technique, celle qu'on a décrite tout à l'heure et que je vais essayer d'analyser ici, ce qui s'est passé, c'est on s'oriente plus vers un impérialiste en fait qui vient détruire les États. Il n'y a même plus besoin de garder le contrôle. Le but, c'est de semer en fait là, c'est une stratégie du chaos. On sème le chaos, on bousille tout, on arme ici, on arme là. Il n'y a pas d'argument idéologique, il n'y a pas d'argument religieux ou etc. Le but, c'est de semer le chaos. Hein, au plus fort, au plus offrant, on participe au commerce parce que faut savoir que Daesh, c'est avant tout une grosse firme commerciale qui vend du pétrole, qui vend du coton, qui vend des œuvres d'art, qui vend à qui veut acheter en fait, parce que s'ils y arrivent, c'est qu'il y a des acheteurs et les acheteurs on les trouve partout, dans l'Occident notamment, et que c'est pas pour rien qu'ils sont devenus autonomes et qu'ils se passent petit à petit de l'argent de l'Arabie Saoudite. Donc la stratégie, c'est la stratégie du chaos en affaiblissant les États, en plaçant des peuples dans la misère et en provoquant des révoltes. Et dans cette situation désespérée, dans la violence, le fanatisme, la criminalité va prospérer et les organisations terroristes comme le Front Al-Nostra ou l'État islamique peuvent facilement recruter. Voilà. Donc en gros, bon, j'aurais beaucoup de trucs encore à dire, mais en gros, les États-Unis font la guerre à ceux qui menacent leurs intérêts. J'oubliais aussi à ceux qui menacent leurs alliés Israël. Donc en permanence. Donc dès qu'il y a un positionnement pro-palestinien ou une émergence d'une critique pro-palestinienne, paf, ça va tomber. L'Europe cautionne ça. Bon, l'Europe, en gros, les États occidentaux, la France, etc., ils sont plutôt guidés par le profit. Et eux, ce qu'ils ont gardé du colonialisme, en fait, c'est plutôt la protection des grandes firmes, qui se faisait déjà dans le colonialisme, mais au final, on détruit les États, on continue à maintenir à protéger les grandes firmes, et on exerce notre commerce. On a l'impression d'avoir un petit peu de pouvoir, mais celui qu'on devrait exercer, on l'exerce pas du tout. Ce qui explique du coup, de la part de la France, parce qu'on voit en permanence dans les journaux, la France, elle est en Afghanistan, elle est en Syrie, elle est en Côte d'Ivoire, elle est au Mali. On me dit que je fais trop long, mais voilà, je vais être obligée de conclure, c'est dur. Bon, en gros, c'est le business, le show must go on hein, pour eux. Il faut l'accès au pétrole, au gaz. Moi, ce que je vois dans Daesh, c'est que Daesh, c'est un enfant de la guerre de l'Irak. C'est un groupe qui est né là-dedans. Et voilà, c'est une firme. Et le capitalisme est transnational. Les États occidentaux n'ont pas de valeur, n'ont pas d'amis, n'ont que des États, que des intérêts. Et derrière ça, il y a des peuples. Voilà, il y a des peuples qui souffrent, qui se prennent des bombes sur la tête depuis une trentaine d'années et qui se prennent le capitalisme dans la face. Voilà, pas de choix, pas de décision. Je vais m'arrêter parce qu'en fait, il faut passer à l'autre étape avec Yemenja, qui est quand même, qui est l'analyse et le décryptage de comment tout ça, ça nous est reçu, parce que ça, c'est ce que nous et l'analyse qu'on se fait quand on prend un petit peu le temps et quand on ferme la radio. Avec Yemenja, on va voir quels sont les messages concrètement qui nous sont renvoyés dans les médias. Et puis, juste pour rappeler tout à l'heure la petite musique qu'on avait en fond. En fait, c'était Beyrouth de Nassam Jalal, qui est une flûtiste syrienne. Et voilà, c'était la musique qu'on avait en fond sur l'introduction. Et tout de suite, on va écouter Joli Môme, Tout allait bien, le groupe Joli Môme, une chanson qui en raconte long aussi.
Mesdames, messieurs, souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, le 10 septembre 2001, et je dis bien le 10 septembre 2001, ce jour-là, tout allait bien, tout allait bien, tout allait bien, tout allait bien. Tout allait bien.
L'OTAN qui s'étendait jusqu'à la Russie impuissante.
La Serbie à genoux
mettait Milosevic en vente.
On pouvait bombarder l'Irak en toute impunité.
Les terres de Palestine intelligemment quadrillées.
Les détenteurs d'actions faisaient fortune sans rien faire.
Et les valeurs de gauche
faisaient place à l'humanitaire.
On affamait des peuples par embargo délibéré.
On se vendait des chars
et des canons et des fusées.
Tout allait bien. Tout allait bien. Tout allait bien. Tout allait bien.
Mais qui a dit
half a million Iraqi children?
Un demi-million d'enfants irakiens sacrifiés. C'est un choix difficile, mais cela vaut la peine.
Merci Madeleine Albright.
Qui a vendu les armes et qui a donné les moyens de faire la propagande et la promotion de la haine?
Non, c'est pas nous. Non, c'est pas nous. Non, c'est pas nous. Non, c'est pas nous.
Marx s'était niais et on voyait l'obscurantisme.
On se prêtait des fonds pour financer le terrorisme.
On comptait tous les morts chez les Hutus, chez les Tutsis.
De temps en temps,
une petite explosion à Paris.
Tout allait bien. Tout allait bien. Tout allait bien.
Mais 13 millions d'enfants par an mouraient sur la planète de faim, de maladie, pendant que l'Amérique en fait se faisait des frayeurs une fois par an pour Halloween.
On rehaussait la bourse,
on licenciait dans les usines.
Tout allait bien. Tout allait bien. Tout allait bien. Tout allait bien.
Qui dit que l'avenir est dans la mondialisation, qui fait l'ordre mondial, qui régit les populations, qui vit de la misère, qui fait la menace et la guerre, qui fait le monde en feu, qui fait les centrales nucléaires?
Non, c'est pas nous. Non, non, c'est pas nous.
Non, c'est pas nous.
Non, c'est pas nous.
Les uns tendent la main pour une poignée de grains de blé.
Les suralimentés contrôlaient leur obésité.
La peur du vieillissement nourrissait les laboratoires.
Le tiers-monde affamé comptait les morts de son histoire.
On avait la télé jusqu'au tréfonds des bidonvilles.
Tu faisais sa culture à coups d'amusement débile.
On y voyait la guerre en direct, en multicolore.
Comme un jeu vidéo où la mort gagne avec la mort.
Tout allait bien. Tout allait bien.
Qui les achète et qui s'en sert, mais qui prend le pognon et fait fortune entre deux guerres. Qui fait l'égalité quand les affaires sont sous la table. Qui fait les fanatiques, qui entretient l'insupportable. Qui entretient l'insupportable.
Introduire un moment d'analyse sur les médias, on voulait d'abord vous faire écouter une sorte de décryptage du jingle de TF1.
Bon, vous savez que le générique d'un journal d'info, il doit suggérer l'angoisse, le suspense. Alors vous cherchez une musique de film qui fait peur. Par exemple, Les Dents de la Mer, c'est une bonne idée. Elle a été composée par John Williams en 75. Personne n'ira penser que vous êtes allé chercher votre inspiration de ce côté-là. Alors dans la bande originale, il y a une mélodie qui est récurrente. Sachez la repérer, écoutez bien.
Ça, c'est Les Dents de la Mer. Hein.
C'est ça. Voilà la mélodie. Voilà. Vous isolez ce passage.
Ouais.
Vous coupez les premières notes et vous changez un petit peu la tonalité. Vous montez de 3 demi-tons. On écoute ça. Voilà, ça c'est toujours Les Dents de la Mer. Mais là on va faire plus angoissant, il faut ralentir toute la phrase, on maintient le rythme avec des contrebasses et des violoncelles, toum 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 toum, on ponctue avec des timbales, ça donne ça. Voilà, là il y a bien le mélange des deux. Il y a un peu Les Dents de la Mer et un petit peu les violons qu'on a fait monter. On baisse les cuivres, on monte les cordes, on fait une accroche avec un crescendo de violon, et puis surtout du volume, il faut que les murs tremblent de peur. Ça donne...
Voilà, donc on comprend bien comment, à travers cet extrait, on comprend bien comment les médias participent à alimenter nos peurs. Et du coup, c'est pour ça qu'on a envie là d'analyser le traitement médiatique de l'actualité et donc d'analyser le discours des médias et des politiques afin de ne pas les laisser instrumentaliser notre peur. Répondre à l'appel au nationalisme et aux valeurs républicaines, c'est jouer le jeu des politiques visant à légitimer une guerre qui n'est pas la nôtre. Médias et politiques travaillent ensemble à nourrir notre peur pour nous faire taire et accepter l'intervention de l'armée française en Syrie, en Irak ou encore au Mali. Accepter l'état d'urgence, sans aucune révolte. Notre imaginaire est pollué par des médias qui veulent nous faire croire que ce qui se passe est nouveau quand ce n'est que le résultat d'alliances frauduleuses et d'une politique guerrière impérialiste. C'est pourquoi je vous propose d'analyser avec vous la presse et le traitement médiatique de l'actualité. Après avoir parcouru plusieurs sites et beaucoup d'articles, j'ai sélectionné pour vous quelques gros titres qui pourront nous permettre de comprendre mieux comment les médias alimentent la peur. Je te propose, si Jeanne, tu veux bien nous lire les gros titres.
Alors, premier gros titre, Valls veut le soutien des géants du web pour promouvoir son contre-discours face à Daesh. Les géants du web ont des réunions régulières avec le gouvernement afin de coordonner certaines actions avec les pouvoirs publics. Mais la rencontre de ce jeudi 3 décembre entre le Premier ministre Manuel Valls, la secrétaire d'État en charge du numérique Axel Lemaire et les 5 plus grandes entreprises de l'Internet et des réseaux sociaux avait une saveur particulière. Après les attentats du 13 novembre et la longue soirée qui s'est déroulée sur les réseaux sociaux, il s'agissait pour le gouvernement de faire le point sur ce qui a été fait et sur ce qui reste à faire.
Voilà, donc là, ça paraît assez clair. Cet article nous montre comment la collaboration entre le gouvernement et les médias est étroite et contrôle l'information et l'opinion publique.
Alors, autre titre, on a « Attentat de Paris, vague de solidarité pour les familles des victimes ».
Vague de solidarité, certes louable, mais solidarité envers qui ? Pas un seul mot dans les grands médias sur les milliers de familles syriennes, irakiennes, kurdes, turques, maliennes, également touchées par les conséquences de la guerre.
Nous sommes prêts à être braves et forts face à nos ennemis.
Qui est ce nous ? De quels ennemis parlons-nous ? On veut nous faire croire que la menace vient uniquement de l'extérieur et que nous devrions nous unir contre elle en omettant que nous vivons dans un état raciste et islamophobe où la police tue impunément. C'est peut-être face à l'islamophobie, au racisme et aux crimes policiers qu'il faudrait être solidaire.
Attentat de Paris, la communauté musulmane s'unit contre les fondamentalistes. Ça, c'est Le Figaro. Les musulmans de France manifestent, toujours dans Le Figaro, les musulmans de France manifestent, ont-ils suffisamment leur opposition à la menace terroriste ? Les musulmans appelés à se rassembler vendredi contre le terrorisme. Ça, c'était sur Europe 1.
Voilà, autant d'articles qui ne sont rien d'autre que des injonctions à choisir son camp, pour ou contre les djihadistes, pour ou contre la République. À ceci, le sociologue Saïd Bouamama répond très justement dans son article intitulé « La construction médiatique des djihadistes », dans lequel il explique, je cite, « Dans le même temps où il est célébré, le musulman modéré est sommé de s'expliquer, de prendre la parole, de condamner les radicaux. Il est en quelque sorte responsable de tous les actes et propos tenus au nom de l'islam par tous ceux qui sur la planète se revendiquent de cette religion. Alors que l'accusation de communautarisme est devenue fréquente lorsque sont abordées des questions liées à l'islam, il est ici demandé aux musulmans de s'exprimer comme une collectivité. »
Autre titre qu'on trouve sur atlantico.fr. L'islam est-il incompatible avec la démocratie ?
Voilà, on cherche à nous présenter l'islam comme une religion homogène, sans séparation entre le politique et le religieux, et incompatible avec la démocratie. Car la France s'est trouvée une religion tout aussi mensongère et idolâtre que le catholicisme romain. C'est la démocratie et la laïcité, telles qu'elles sont utilisées comme étendards guerriers. Ainsi, les lois sur l'interdiction du hijab, les lois antiterroristes, qui permettent l'emprisonnement de tout musulman sans aucune preuve sérieuse, sont autant de gifles au visage de tout musulman qui croit encore qu'il est possible de cohabiter ou de vivre l'islam dans un état soi-disant démocratique. On remarque également que les musulmans sont très souvent cités dans les unes médiatiques. Il est important de dissocier islam et état islamique. Nous ne sommes pas dupes. Nous comprenons que la religion n'est en fait qu'un prétexte à une guerre purement et simplement économique, comme nous l'a expliqué Jeanne tout à l'heure. La religion joue un rôle, certes, mais de justification dans le parcours des terroristes. Ce ne sont papes les plus religieux qui vont combattre. Les combattants occidentaux en particulier ont souvent redécouvert l'islam à l'adolescence ou comme convertis.
Alors là, on a un autre titre sur RTL. Autre titre sur RTL. Alors, c'est vrai qu'il y a une partie des jeunes qui sont radicalisés. Est-ce que les élus sont suffisamment mobilisés dans les quartiers ? A demandé Olivier Mazerolle. Donc ça, c'était sur RCL.
Pour répondre, je m'appuierai sur une enquête menée par la sociologue Dunia Bouzard, qui a étudié en échantillon de 120 familles françaises dont les enfants sont candidats au départ en Syrie. Elle relève que la majorité des jeunes embrigadés ne sont même pas religieux. Je vous cite ses réponses dans son interview avec l'Observateur du Maroc et de l'Afrique, qui lui demandait « Vous avez fait le choix de relater principalement des témoignages de jeunes filles embrigadées par Daesh. Pourquoi ?» Et Dunia Bouzard de répondre « Ce sont les parents des jeunes filles qui nous appellent le plus souvent. Les filles sont en général issues de la classe moyenne, n'ont pas connu l'immigration et sont plutôt de référence catholique ou athée. Ce sont des filles de professeurs, de fonctionnaires, d'avocats, de médecins. Nous avons aussi des filles d'origine maghrébine, mais ce n'est pas la majorité. Nous avons 3% de jeunes filles issues de familles juives. C'est pour cela que le débat liant la radicalité à l'intégration, c'est du n'importe quoi. » Et donc l'Observateur du Maroc et d'Afrique lui demande « Qu'est-ce que ces jeunes filles ont en commun ?» Et elle répond « Une grande sensibilité et des valeurs humanistes. Les rabatteurs les repèrent en faisant des recherches avec des mots-clés. Elles sont toutes marquées sur Twitter et Facebook. Elles ont toutes marquées sur Twitter et Facebook qu'elles voudraient être infirmières, médecins, assistantes sociales. Elles sont altruistes et voulaient toutes exercer des métiers qui auraient permis un monde plus juste. »
Alors, autre titre hein, pour continuer dans l'analyse des médias, un titre qu'on a dans Le Point. Alors, attentat à Paris, on a déclaré la guerre à la France. Montrez notre unité.
Voilà, on sait, comme nous l'a dit Jeanne tout à l'heure, que la France et les États-Unis ont formé les soldats de Daesh, leur ont livré des armes et ont financé les États qui les soutiennent, comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite. Les grands médias ont passé sous silence toutes les activités secrètes du gouvernement français dans le monde arabe, ses alliances avec les dictatures du Golfe et sa participation active au terrorisme.
Alors du coup, je peux reprendre un truc par rapport à ces alliances. Un autre titre qu'il y a sur France Info, c'est « La France et les États-Unis feront front commun face au terrorisme », assure Hollande et Obama. Bon, voilà, c'est le parallèle sur quel front ils font en réalité. Et du coup... Ce qui justifie derrière d'autres titres qui arrivent, des titres sur l'état d'urgence. Donc là, on a un titre sur politis.fr, par exemple. État d'urgence, on prend de gros risques pour la démocratie.
Et là, on veut nous faire croire que pour assurer notre sécurité et préserver les droits de l'homme, nous devons y renoncer. En alimentant notre peur, les médias et les politiques nous amènent à penser qu'il n'y a pas d'autre solution que la guerre et l'état d'urgence pour assurer notre sécurité. Même si cette sécurité est au prix de nos libertés. Et c'est ce que vont nous expliquer plus en détail Roselyne et Yvon, à qui je laisse la parole.
C'est à vous. Bonjour Yvon, bonjour Roselyne.
Bonjour.
Bonjour. Donc, beaucoup de choses ont été dites sur la manipulation très opportune pour nos gouvernements des attentats, et pour à la fois pour la situation intérieure, c'est-à-dire serrer la vis... déclarer l'état d'urgence, et à la fois pour déclarer une guerre contre qui, contre quoi, avec qui, on ne sait pas bien. Tout ce qu'on a entendu ces derniers temps, c'est qu'en Syrie, il fallait aider les gens, donc on les bombarde. Voilà. Et on a entendu aussi qu'il fallait lutter contre le terrorisme, et donc on bombarde la Syrie. Voilà. Ce qu'on sait moins, c'est que l'armée française, en l'occurrence l'aviation, a bombardé cette dernière semaine en plein centre-ville une ville de 200 000 habitants qui s'appelle Raqqa, sous prétexte qu'il y a des terroristes à Raqqa. Donc voilà l'aide qu'on apporte à la Syrie. Hein. On bombarde une ville de 200 000 habitants. Bien sûr, on nous déclare que c'est une aide ciblée, c'est une attaque ciblée, et on va voir plus tard les victimes collatérales qui pour l'instant restent passées sous silence. Maintenant, l'aide à la population, ben, ça a été développé tout à l'heure par Jeanne, on a vu ce que c'était. Au niveau intérieur, Bon, ben, oui, j'ai oublié de dire que l'escalade ne fait que commencer, puisqu'on voit le déploiement maintenant international, l'aide de la demande de François Hollande d'avoir d'autres partenaires occidentaux pour venir l'aider et puis pouvoir aussi également vendre les Mirages, vendre les missiles de Thompson, etc. Et en intérieur, qu'est-ce qu'on voit ? Les coups de menton, les arrestations qui sont assumées, notamment et essentiellement dans les milieux arabes, à qui, comme ça a été dit tout à l'heure, on demande aux Arabes maintenant de se justifier par rapport à la situation intérieure, par rapport à la situation internationale. C'est vraiment aux Arabes de se justifier par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Et cette tentative d'injonction à l'Union nationale, j'espère qu'elle ne marchera pas. Derrière la justification donnée, la chasse aux terroristes, le gouvernement installe maintenant pour 3 mois, au moins, il est question de beaucoup plus, une suspension des libertés, une répression tous azimuts, et spécifiquement, comme je l'ai dit, contre des Arabes. Encore, c'est un signal complaisant vis-à-vis des racistes de tout poil, mais aussi des militants politiques et syndicaux. C'est une bonne occasion de les faire taire au moment où les droits sont attaqués dans tous les domaines, les lois sociales, antisociales de Macron, les services publics menacés, etc. Il y a eu de nombreuses arrestations, perquisitions, gardes à vue, procédures pénales, etc. Et on voit que derrière ce grand tumulte, il n'y a que 2 procédures, à ma connaissance aujourd'hui, qui ont abouti, dont une, figurez-vous, pour refus de donner ses empreintes. Vous voyez le terrorisme qu'on recherche. Maintenant, on nous annonce carrément un changement de constitution dans lequel on pourrait faire graver dans le marbre toutes ces mesures attentatoires aux libertés. Et c'est directement, enfin certaines de ces mesures en tout cas, sont directement inspirées des programmes de la droite et de l'extrême droite. Il y avait quelque chose qui choquait il y a 2 ou 3 ans, les propositions du Front National d'échéance de nationalité, anticonstitutionnelle, etc. Et ben c'est pas grave, la gauche les fait passer, veut les faire passer dans la Constitution. Il y a seulement, il faut quand même le noter, 6 députés qui ont refusé de donner les pleins pouvoirs au gouvernement. Espérons qu'ils serviront d'exemple à leurs collègues, je suis naïf mais je continue à l'espérer, et que l'état d'urgence vraiment dégueulasse sera levé et que le projet de réforme constitutionnelle sera abandonné. Et je voulais souligner le courage des manifestants et de tous ceux qui affrontent la police au quotidien, chacun dans leur quartier, parce que vous avez peut-être entendu parler que maintenant ils arrivent sans prévenir, sans mandat de juge, et ils arrivent, ils défoncent la porte. Tant pis s'il y a un gamin derrière qui est blessé, c'est pas grave. Tant pis si tout le monde est terrorisé. C'est maintenant autorisé, semble-t-il, ou ils se donnent cette autorisation avec l'état d'urgence. Alors avant de présenter nos invités qui vont nous parler de l'état d'urgence, justement, je voudrais citer Benjamin Franklin. C'est assez rigolo. Il dit « Un peuple qui est prêt à perdre un peu de liberté pour un peu de sécurité finit par perdre et l'une et l'autre. » Alors Roselyne, tu es présidente du Centre d'information Interpeup, qui est une association qui, malgré sa taille modeste et ses moyens modestes, joue un rôle très important dans les milieux militants de l'agglomération. Et je suis tombé tout à fait par hasard, mais ça tombe bien puisqu'on a l'émission, sur un texte que... parce que vous faites un journal mensuel.
Oui.
Et je suis tombé sur un truc, c'était sur la guerre d'Irak il y a exactement 1 an. Et je vais vous lire juste un tout petit passage, parce qu'on pourrait pratiquement à quelques virgules près le garder pour aujourd'hui, comme quoi la situation est toujours la même, comme tu l'expliquais, Jeanne. Que le groupe Daesh soit un effroyable danger pour les populations de la région, ça ne fait pas de doute. Mais c'est d'abord la conséquence monstrueuse de toutes les ingérences et toutes les interventions coloniales des puissances occidentales, dont l'approvisionnement en pétrole provient en bonne partie de cette région du monde. Depuis l'expédition de Suez en 1956, les puissances occidentales sont intervenues maintes fois pour s'assurer le contrôle économique et géostratégique de cette région. Les deux guerres du Golfe, même j'en ai remonté plus loin, mais c'est une continuité, les guerres en Afghanistan, la guerre de Sarkozy en Libye, le soutien inconditionnel à Israël et à sa politique coloniale depuis sa création. les conflits militaires permettent aussi de profiter juteux des industries de l'armement. Rien que pour la France, l'exportation des armes a augmenté de 47% en un an, générant une augmentation du chiffre d'affaires de 7 milliards d'euros. Et il faut voir que maintenant, on vend des armes, des mirages, des missiles à toute la région. Et disons, le chiffre d'affaires se porte bien.
À toute la région et à tous les groupes, en fait. À tout le monde, oui. Sans tri. Hein.
Tout à fait.
Roselyne, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que c'est que l'état d'urgence ? Et est-ce qu'il a déjà été utilisé dans le passé ?
Oui, je vais commencer par cette question-là. L'état d'urgence, c'est quand même quelque chose d'assez spécifique pour deux raisons. Vous savez qu'il y a d'autres mesures d'exception dans la Constitution. L'état d'urgence n'est pas encore dans la Constitution. C'est les pleins pouvoirs au président de la République, ce qui est toujours assez compliqué, ou les pleins pouvoirs à l'armée, ce qu'on appelle l'état de siège. Mais l'état de siège, ça peut être utilisé que quand la France estime qu'elle a affaire à une vraie armée. Donc, du coup, Daesh, c'est pas une vraie armée. Ça applique pas les règles dégueulasses, d'ailleurs, mais des règles quand même de la guerre. Donc, ils sont tenus un peu d'appliquer cet état d'urgence de façon permanente et ils vont essayer de l'inscrire dans la Constitution. Et l'état d'urgence, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est qu'il a été créé en 1955, en Algérie, sur le sol algérien, les Algériens se battaient pour leur indépendance contre le colonialisme de la France. Et il a été décrété en 1955 pour l'Algérie et pour tout ce qu'on appelait à l'époque les départements d'outre-mer. Des fois que d'autres auraient aussi des idées de se révolter, de se rebeller, tous ces gens étaient en état d'urgence, ce qui a permis aussi ce qui a autorisé de fait les exactions, c'est le moins qu'on puisse dire, le viol comme méthode et la torture, bien évidemment. Il a été utilisé une deuxième fois en 1984 contre les Kanaks qui se battaient aussi pour pouvoir simplement vivre dans leur pays face aux caldoches. Et peut-être que vous ne vous souvenez pas, 1984 c'est déjà ancien, mais ça a permis aussi là que l'armée et la gendarmerie fassent des actions absolument scandaleuses et de condamner des Kanaks, c'est les seuls qui ont été condamnés d'ailleurs dans ces événements, à des peines de prison longue et sur la métropole. Et puis, il a été utilisé une troisième fois de façon partielle en 2005, au moment de la révolte et des émeutes des banlieues. Il a été utilisé dans certains quartiers sous forme de couvre-feu. Donc déjà, personne ne pouvait sortir à certaines heures du quartier. Et il y avait comme des checkpoints, comme en Palestine, à l'entrée de certains quartiers. Donc, à chaque fois, il a été utilisé, en fait, contre des populations ciblées. Parce qu'en, par exemple, il n'a pas été utilisé en 1968. Je dis toujours ça parce que c'est assez fort de café. Il a été utilisé sur des populations ciblées. Et aujourd'hui encore, alors aujourd'hui, c'est peut-être encore plus fort parce qu'il est décrété sur l'ensemble du territoire, pour tout le monde. Et chaque préfet peut adapter son niveau de répression dans son département. Il est autorisé, en gros, et la police avec, à faire ce qu'ils veulent, exactement, jusqu'où ils veulent aller, etc., etc. Alors, c'est vrai que plusieurs ont insisté, mais j'en remets une couche quand même, sur ce racisme porté par le pouvoir politique en France, qui est quelque chose d'assez fort. Et là, que ce soit la droite ou la gauche, on entend plein de personnalités politiques. Moi, j'ai entendu Juppé, hein, c'est pas une référence, mais il prend beaucoup de place pour dire ça, que les musulmans français doivent se désolidariser de ce qui vient de se passer. Et c'est vrai que c'est assez scandaleux parce que ça suppose que, d'abord, ils étaient solidaires avant, hein, donc ils peuvent dire n'importe quoi, mais ils sont considérés comme musulmans, donc solidaires. Et ça, c'est un racisme d'État. C'est exactement ça, le racisme d'État. Donc, ils sont traités particulièrement. Et ça encourage et ça développe, et on le voit largement en ce moment, une sorte de racisme qu'on pourrait appeler populaire, c'est-à-dire qui n'est pas institutionnel, mais la peur de l'autre, plus l'encouragement donné par l'État, ça donne ce qu'on voit aujourd'hui, les mosquées taguées, les agressions contre les personnes, contre les femmes, mais aussi contre les hommes musulmans, un petit peu de partout. Donc, ça, c'est la première, l'état d'urgence. Il permet toujours ça. Enfin, dans l'histoire, à chaque fois qu'il a été décrété, cet état d'urgence, il a permis ça, il a renforcé ça. Ensuite, aujourd'hui, cet état d'urgence, il fait deux choses particulièrement graves. C'est qu'il suspend les libertés individuelles. Et les libertés individuelles, c'est pas qu'un truc de bobo. Ça permet quand même de circuler à tout le monde, y compris pour aller défendre des copains qui seraient attaqués ailleurs. Donc ça, ils peuvent interdire de circuler à certaines personnes, n'importe où en fait sur le territoire. Et il faut pas grand-chose pour être entravé dans la liberté de circulation. Ils peuvent également perquisitionner, et là on l'a vu, de jour comme de nuit, sans l'aval d'un juge. C'est-à-dire que bon, là il faut pas grand-chose, hein. Il suffit peut-être c'est sûr que ça existait quelquefois comme ça, d'un coup de fil, anonyme, qui explique qu'il y a des personnes qui ont des agissements spéciaux pour que leur porte soit défoncée et que en pleine nuit ou en pleine journée, on vienne regarder tout ce qu'il y a chez eux. En fait, l'interdiction de séjourner aussi dans certains départements, elle est extrêmement large. C'est toute personne qui cherche à entraver l'action des pouvoirs publics. Entraver l'action des pouvoirs publics. Alors, où ça commence, où ça se termine, il suffit de pas être d'accord, des fois, pour entraver une action des pouvoirs publics.
On l'a vu. C'est le fond du problème.
Eh oui. Et l'assignation à résidence, elle n'est pas formulée sur des actes, mais sur des soupçons. On peut penser, c'est écrit, s'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. Donc un comportement, quoi. Donc ça fait peur, parce qu'effectivement c'est tout sauf rationnel, et c'est pour tout le monde. Alors à la fois les suspensions des libertés individuelles, moi j'insiste là-dessus parce que en fait le premier réflexe, moi j'en ai parlé avec mes voisins, c'est de dire de toute façon si on fait rien il nous arrivera rien. Ben oui, mais c'est justement ça le problème. Pourquoi on ferait rien alors qu'il y a beaucoup de choses à faire en ce moment, que ce soit sur l'urgence sociale, l'urgence logement, l'urgence par rapport aux migrants et tout ça. En fait, ça incite les gens à rester chez eux, à s'isoler et à en punir certains, pour donner des exemples. La deuxième chose, c'est la suspension des libertés publiques, et ça, collectives. Ça, c'est quand même assez fort, puisqu'ils peuvent fermer actuellement absolument tout ce qu'ils veulent. Alors, de façon provisoire, mais un provisoire qui n'est pas inscrit dans le temps, c'est les salles de spectacle, les débits de boissons, les lieux de réunion. Ils peuvent interdire des spectacles, des réunions, des manifs, on l'a vu, des manifs de nature à provoquer ou à entretenir le désordre. Hein, donc on est vraiment sous un joug de l'ordre, et l'ordre c'est celui qui a été décidé aujourd'hui par ce gouvernement, et ça c'est pas possible. Donc ils peuvent instituer des couvre-feux dans certains lieux, et ils peuvent dissoudre des associations et des partis. Voilà, donc c'est grave en soi, et c'est grave dans le fait que ça vise à casser toutes les solidarités. Et ça, je pense que ça touche absolument tous ceux qui essaient de bouger et de résister un peu, quel que soit le sujet. Et ils ont prolongé, vous avez vu, jusqu'au 26 février. Mais ils souhaitent faire beaucoup mieux et beaucoup plus. Donc c'est pour ça qu'ils proposent déjà une modification de la Constitution. Et ça va aller très vite, puisque le Conseil des ministres du 23 décembre, donc dans 3 semaines, il va être saisi d'un texte. Et ce texte est dramatique, évidemment, puisque l'état d'urgence serait inscrit dans la Constitution sans durée, c'est-à-dire qu'il ne sera pas limité par la Constitution, et que, en plus, lorsque les événements qui ont conduit à décréter l'état d'urgence auront cessé, mais que demeurera la menace, par exemple, d'un risque d'acte terroriste, eh bien, les autorités civiles, c'est-à-dire les préfets, pourront maintenir en vigueur les mesures prises pendant les mois précédents. Ça veut dire qu'en fait, ça écrit ça, que l'état d'urgence, ça pourra devenir l'état de droit. Donc on pourra, ils pourront contre nous faire absolument tout ce qu'ils veulent pendant très longtemps. Déjà là, ils annoncent que l'état d'urgence, c'est pas fait, pourrait être quand même repoussé de 6 mois. Enfin, toutes les mesures prises pendant l'état d'urgence pourraient dans un premier temps être repoussées pendant 6 mois jusqu'au 26 août. Et la deuxième chose que propose cette modification, c'est la déchéance de nationalité française, même pour des personnes qui ont une autre nationalité aussi, les doubles nationaux, qui sont nés en France et dont la nationalité est française de naissance ou acquise. Alors, ou acquise, c'était déjà possible, malheureusement. Mais là, ils proposent d'étendre ça à tout le monde. Alors, on peut se dire, ouais, mais en fait, la déchéance, vu ce qu'est l'État français, on s'en fout un peu. Mais ce qui est compliqué, c'est que quand vous n'avez pas la nationalité française ou que vous êtes déchu, tous les droits qui vont avec, ils sont supprimés. Donc, c'est grave, hein, c'est les droits sociaux, quand même. C'est les droits civils. Si vous, par exemple, est-ce que les déchus de nationalité auront droit de manifester, c'est pas sûr, de bouger, de soutenir, de vivre comme ils l'entendent, c'est pas sûr du tout. Et ça crée donc en France des gens qui n'auront vraiment pas de droit du tout, même pas le minimum de droit d'être étranger, parce qu'ils ne seront ni étrangers, en fait, ni français. Et évidemment, aujourd'hui, la droite et l'extrême droite s'appuyant là-dessus disent que on pourrait aussi les parquer, ces gens-là. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des camps, des déchus? Parce que comme ça, on saurait où ils sont quand on en a besoin ou tout ça. Ou leur mettre un bracelet électronique à vie pour tous ceux qui seront déchus. Alors là, ce qui est dans les fondamentaux, ça peut changer. C'est des gens qui auraient effectué des crimes ou des délits constituant un acte du terrorisme, mais aussi tous ceux qui seraient reconnus coupables d'un mouvement insurrectionnel. Hein, les mouvements insurrectionnels. Alors là, ça, c'est pas un mot de droit, c'est quand même ce qui est proposé dans la modification de la Constitution. Et les mouvements insurrectionnels, effectivement, ça peut être nous demain matin, si on décide de se révolter une bonne fois pour toutes. Et ça sera étendu largement, bien sûr, d'abord aux personnes étrangères, mais étrangères, j'exagère, les personnes ayant eu la nationalité française, et ça pourrait être étendu très, très largement.
Sans transition et pour aller un peu sur le même sujet, on s'écoute une chanson de Cazet. Qui sont-ils? Cazet, donc, qui vit en Seine-Saint-Denis, un département probablement bien marqué par l'état d'urgence actuel. Puisque si l'état d'urgence ne se met pas en mai 68, il est bien présent actuellement, en tout cas.
Puisqu'on submerge de son et d'image, que nos vies ne se forgent que dans les cages d'escaliers que gentiment on nous héberge et qu'on a fait de nos paliers de vrais coupes-gorges. Tu es sur tes gardes chaque fois que t'abordes ce que l'on désigne quand le débat déborde comme des hordes de barbares en afro ou avare que tu flippes de croiser le soir quand tu t'attardes. Et c'est par les urnes que tu informes que ça manque de burnes chez les uniformes et que des vies germent dans nos épidermes. Et tu sais le tapage nocturne quand les gens dorment. Tu brailles, tu clames qu'on y mette un terme. Tu réclames que ceux qui te gouvernent deviennent plus fermes. Que si tous boxons sont sous ton balcon s'acharne, c'est sûr tu feras un carton avec ton arme.
Qui sont-ils?
Tu verbalises des gosses, tu terrorises des vieux, tu utilises la force. Brassard de police et drapeau sur le torse. Tu fracasses des faces en légitime défense. Et rappelle qu'ici quand même on est en France. Et que toi tu penses et fais des sacrifices. C'est pas pour l'avoir dans l'os ou l'orifice. Donc vos papiers s'il vous plaît messieurs, ôtez les mains de vos poches et puis baissez les yeux. Et que personne ne bronche, tout ira pour le mieux. C'est bon, remballez vos tronches et quittez les lieux. Déjà un an de service et à ton palmarès. Des sales manouches, des sales bicots et négresses. Les collègues t'applaudissent et une juge te caresse. Et pour fêter ça, tu tires en état d'ivresse.
Qui sont-ils?
Et la contrebande, beaucoup plus de flics, de prison et d'amende. Selon le dernier
fait de grandes tirades sur la menace de ses gangs et puis du djihad. Parler d'escalade, de violence et de balade avec des gars des télé sur nos esplanades. Promets aux Français malades ton aide. Leur dit que la meilleure méthode c'est la plus raide. Afin de terminer pour une fois dans les poudres avec ces voyous qui te vendent flingue et poudre. Donc ils viennent sur les listes électorales et tu rétabliras l'ordre et puis la morale. Une politique virile car l'immigré s'impose. Voilà ce que ton programme présidentiel propose.
Écoute ta radio où tu veux, quand tu veux.
www.radionewsfm.fr.
Je vais enchaîner avec une sorte de petit point juridique parce que ça semble assez nécessaire que tout le monde connaisse un peu ses droits, même si ces temps-ci, comme on vient de l'entendre, les droits semblent particulièrement réduits. Alors, pour préparer ça, je me suis appuyée surtout sur le travail du collectif contre l'islamophobie en France, qui ont produit une brochure, un guide pratique, du coup le CCIF. Et leur guide pratique, on peut le retrouver sur leur site internet www.islamophobie.net. Je vais parler des trois mesures principalement utilisées par la préfecture à l'heure actuelle, la perquisition administrative, l'assignation à résidence et la fermeture administrative. Ces trois mesures sont donc bien des mesures administratives de l'administration de l'État, en général la préfecture. C'est dans le cadre de l'état d'urgence que c'est possible, parce qu'en fait cet état d'urgence va donner plus de pouvoir à l'administration de l'État, et donc finalement au pouvoir exécutif. Ce ne sont pas des mesures judiciaires qui seraient mises en place par la justice, parce qu'elles se fondent pas du tout sur des actes concrets et elles n'ont pas lieu dans le cadre d'une enquête ou dans le cadre d'une peine. En fait, elles se fondent sur rien, sur l'idée, par exemple, que ces actes y pourraient être commis, sur le risque que ces actes existent, sur leur possibilité. Donc c'est vraiment hyper flou. Ça va pas être pour condamner ou pour mener une enquête à partir de quelque chose, c'est bien à partir de rien, pour prévoir au cas où il y aurait des actes possibles. Donc c'est très risqué finalement. Ce qui peut entretenir un flou entre les deux, c'est que ces les perquisitions, les fermetures administratives ou les assignations à résidence, en fait c'est les mêmes flics qui vont les mettre en place. Que ce soit la perquisition pour aller pointer dans un commissariat, ça va être vraiment la même police, sauf que les donneurs d'ordre à cette police vont pas être les mêmes. Alors, avec l'état d'urgence, le préfet il va prendre des décisions tout seul, sans le juge, et si jamais on veut contester, après coup, les décisions du préfet, il va falloir saisir le juge administratif, au tribunal administratif, et ça sera toujours après coup. La majorité de ces mesures, elles sont basées sur le risque d'atteinte à l'ordre public. Et on sait très bien que l'atteinte à l'ordre public, ça peut être à peu près tout ou n'importe quoi. Ça peut être plusieurs dans la rue, ça peut être refuser un contrôle d'identité, ou ça peut même être faire la manche. Alors pour passer à du concret, je vais donc vous expliquer ce qu'est une perquisition administrative, sachant que il y a déjà eu plus de 2240 perquisitions administratives depuis le début de l'état d'urgence. Alors, elle se fait à la demande du préfet, sans aucun avertissement, et elle peut avoir lieu de jour comme de nuit. C'est en fait la police qui va débarquer dans un lieu, que ce soit un domicile, un lieu public ou privé, ou un véhicule. Elle va visiter et fouiller le domicile à la recherche d'indices ou d'infos qui pourraient permettre d'ouvrir une enquête ou simplement pour intéresser la justice ou les renseignements généraux, enfin la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Une des raisons évoquées est souvent le fait que le lieu soit fréquenté par une personne considérée comme éventuellement dangereuse. Alors, durant la perquisition, il doit obligatoirement y avoir un officier de police judiciaire, un OPJ. Et si, à un moment, dans le cadre de la perquisition, cet OPJ trouve les preuves d'un délit, alors il peut saisir des objets, c'est-à-dire les prendre et les mettre sous scellés pour faire une enquête. Mais si l'OPJ ne trouve aucune preuve de délit, il ne peut rien emmener de l'appartement. Mais par contre, il a le droit de copier les informations contenues dans tous les matériels informatiques et numériques qu'il trouve. Les informations qui ont été copiées de ce matériel informatique et numérique, elles peuvent être stockées. Il n'y a pas de durée limite à ce stockage d'informations et il n'y a pas non plus dans la loi d'informations sur à qui elles sont données et par qui elles sont partagées. Alors, pour mener cette perquisition, les flics ils doivent être munis d'une autorisation de perquisition du préfet avec les raisons de la perquisition dessus. Alors, à la fin de la perquisition, il est demandé à l'occupant du lieu de signer un procès-verbal et c'est vraiment hyper important de le lire, de le comprendre et de vérifier les informations que contiennent ce procès-verbal pour savoir ce qui a pu être saisi, ce qui a été fouillé, etc. etc. De pas le signer s'il y a des fausses informations à l'intérieur. Et sachant que, a priori, la police va repartir sans laisser de copie de ce procès-verbal. Et si jamais il y a des objets qui sont saisis dans l'appartement ou dans le lieu, les raisons de cette saisie doivent être indiquées dans le procès-verbal. C'est possible de faire un recours, mais bien sûr, quand le recours a lieu, la perquisition est passée, mais voilà. C'est indiqué que c'est possible de faire un recours au tribunal administratif, notamment parce que les motifs de la perquisition sont injustes. C'est aussi possible de demander une condamnation de l'État pour les dégâts parce que effectivement souvent il y a des affaires cassées, voire des appartements ou des lieux complètement saccagés et les portes détruites. On sait pour les abus qu'il y a des portes qui ont été cassées par la police avec des armes à feu ou du plastique, des béliers, et que lors de ces intrusions il y a des enfants qui ont été blessés, qu'il y a énormément de lieux qui ont été complètement saccagés. On peut évidemment faire un recours auprès d'un juge correctionnel. Après, si jamais, par exemple, on veut récupérer des affaires qui auraient été saisies, il faut s'adresser à un juge en correctionnel ou un juge d'instruction en fonction de l'affaire qui justifie la saisie des affaires. Alors, je vais ensuite passer à l'assignation à résidence. Il y a eu au moins 330 assignations à résidence. Et ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y en a une très petite minorité qui ont été mises en place pour la répression autour de la COP21, moins de 5%, et elles ont a priori toute une durée limite, la durée de la COP21. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des assignations à résidence n'ont pas de durée limite, et c'est pas parce que l'état d'urgence s'arrêtera que ces assignations à résidence s'arrêteront. C'est-à-dire que maintenant qu'elles sont mises en place, elles peuvent continuer au-delà de la fin de l'état d'urgence. Alors une assignation à résidence, c'est quoi ? C'est quand une personne a l'interdiction de quitter son domicile, soi-disant parce qu'elle serait dangereuse, et donc le motif de cette assignation, il doit être indiqué sur l'acte d'assignation à résidence. Et les personnes, pour prouver qu'elles restent bien là où chez elles, elles doivent aller pointer au commissariat ou à la gendarmerie de leur secteur, au maximum 3 fois par jour, sauf que ça s'est vu que des personnes devaient aller pointer 4 fois par jour. Et dans ce cadre-là, on peut leur confisquer leurs papiers d'identité. Il peut aussi leur être interdit d'entrer en contact avec des personnes et le lieu de résidence peut être aussi désigné d'office et ça peut être à la campagne ou dans une autre ville inconnue, etc. Et sous certaines conditions et dans certains cas, les personnes peuvent être aussi forcées de porter un bracelet électronique qui permet de vérifier de surveiller tous leurs déplacements. Il est tout à fait possible de contester l'assignation à résidence auprès du tribunal administratif. C'est une procédure d'urgence, un référé liberté. Il faut saisir le tribunal administratif dans les 48 heures après qu'on ait une assignation à résidence. Alors, vous voyez, quand on est bloqué chez soi, en allant pointer 3 fois au commissariat, des fois dans une campagne à l'autre bout de la France qu'on ne connaît pas, contacter un avocat pour faire un recours sur une assignation à résidence, ce n'est pas évident. Pourtant, c'est important d'essayer de le faire. Il y a plusieurs axes de défense possibles sur le fait que les motifs d'assignation à résidence sont mauvais ou sur, alors je cite la loi, parce que ça constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Bon, ce qu'il est important de vous dire aussi, c'est que a priori, il y a pour l'instant aucun procès qui a été gagné pour supprimer ces assignations à résidence. En tout cas, une des choses aussi qui peut être importante de faire, c'est de regarder s'il n'y a pas eu des vices de forme, si la procédure a bien été respectée pour cette assignation à résidence, et si c'est pas le cas, ça peut être aussi un moyen de la faire supprimer.
J'ai juste une petite question. C'est par rapport à la... Alors, en fait, tu disais qu'il y avait des gens qui étaient à la campagne. Est-ce que l'assignation peut se faire en dehors de son domicile personnel?
Ouais, c'est ça. Quand, en fait, à un moment, ça peut être que le lieu d'assignation à résidence peut être désigné d'office. Du coup, c'est pas chez soi. On est déplacé, emmené dans un endroit inconnu, déraciné. C'est un objectif de déracinement. C'est très peu commenté sur Internet. J'ai trouvé peu d'informations là-dessus, mais plusieurs témoignages autour de ça et des court phrase qui en parle, mais c'est très peu développé. Mais effectivement, il y a vraiment un truc de déracinement des personnes qui est fait pour les isoler et les éloigner.
Et peut-être on peut parler d'un wiki qui est sur Internet. J'ai pas l'adresse en tête exactement, mais en fait, c'est un wiki qui recense plein de témoignages de personnes qui, du coup, subissent toutes ces choses qui sont décrites là, qui sont liées à l'état d'urgence jour par jour, et on voit que c'est vraiment une tonne de témoignages, et que ce wiki, j'imagine qu'il va faire que se remplir et remplir, mais ça donne une bonne idée de ce qui se passe.
Merci, mais je vais essayer de continuer pour essayer de rester cohérente dans le développement de ce truc, parce que c'est pas encore le sujet. Alors, on peut faire des recours pour essayer d'annuler ces assignations à résidence, mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si on ne respecte pas l'assignation à résidence administrative, c'est un délit qui est jugé en pénal, et ces dernières semaines, il y a eu plusieurs peines qui ont été données pour non-respect d'assignation à résidence administrative, des peines avec des jours amendes assez élevées de 15 € par jour par exemple, ou 4 mois ferme à une autre personne, 6 mois de sursis à une autre personne, bref, c'est lourdement sanctionné. Alors, pourquoi des assignations à résidence sont données? C'est des comportements qui... Voilà, on va dire, cette personne n'a pas le bon comportement, on va lui coller une assignation à résidence. Ce comportement, il peut être très vague, hein, ça peut être avoir fréquenté des personnes impliquées dans un acte de terrorisme ou considérées comme dangereuses. Alors, c'est aussi des trucs complètement farfelus. Comme par exemple, avoir critiqué des posters de femmes sportives en tenue légère. Ou alors, faire du sport la nuit en tenue paramilitaire de type camis. Sachant que le camis, c'est une tenue d'homme longue qui n'a rien à voir avec une tenue paramilitaire. Enfin, c'est pas comparable, quoi.
Du coup, ça veut dire quoi?
C'est des raisons fausses et farfelues de coller des assignations à résidence. Voilà, alors je vais ensuite passer aux fermetures administratives. Il y a au moins 3 mosquées qui ont été fermées. Alors, c'est une fermeture sur la... 6. Ah ok, les derniers chiffres que j'ai trouvés, c'était 3. Donc il y a au moins 6 mosquées qui ont subi des fermetures administratives. C'est quand des locaux sont fermés sur décision de la préfecture. Ça peut être, comme on l'a entendu, n'importe quel locaux qui peut servir à des réunions de toute nature. Locaux administratifs, restaurants, mosquées, bars, salles publiques ou privées, quoi. Alors le préfet doit la justifier par une atteinte à l'ordre public, ce qui est donc très vague comme on l'a vu. C'est aussi possible de faire des recours. Il y a 2 types de recours possibles. Un recours très rapide, mais où il faut justifier l'urgence de ce recours, ce qui peut être difficile. Et un recours plus lent, le référé suspension, mais qui est souvent plus difficile à gagner. Donc nous, c'est donnant-donnant, quoi. Bon, on a l'impression que pour... c'est assez clair que pour mettre en place toutes ces mesures, que ce soit les fermetures administratives, les perquisitions et les assignations à résidence, Enfin, les préfets assument, il y a un préfet qui a assumé qu'il voulait ratisser large, qu'il allait taper un peu au pif et le plus largement possible dans l'espoir de tomber sur quelque chose. Donc on voit que c'est vraiment assez grave et que ça respecte pas les libertés fondamentales ou même la base de tout, quoi. Mais un des trucs dont on a beaucoup entendu parler dans les médias, c'est la fiche S. Et du coup, je voulais vous faire un petit rappel de ce que c'est qu'une fiche S. La fiche S, c'est un des fichiers de... un fichier... qui fait partie du fichier des personnes recherchées, sachant qu'il y a 400 000 personnes qui sont fichées dans le fichier des personnes recherchées, et 20 000 personnes qui ont des fiches S. Le S correspond au S de sûreté de l'État, mais c'est des personnes très différentes qui peuvent être fichées dedans, comme des hooligans de foot ou des militants du PKK, c'est-à-dire le Parti des Travailleurs Kurdes. mais en tout cas plus de la moitié de ces personnes fichées le sont pour, selon leurs mots, pour le fait d'être des individus qui appartiennent à la mouvance islamique ou ont des liens avec elle. Bon, c'est très flou, tout est très flou. Ces fiches, elles sont établies par la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la DGSI, ou par le partage d'infos entre des pays. En fait, quand on lit un peu les informations sur la fiche S, comme sur le blog Les Décrypteurs du Monde, c'est assez bien expliqué. On se rend compte que c'est assez simple, finalement, d'être fiché S. Voilà. Alors, une bonne part des informations que je viens de vous donner, elles proviennent du CCIF, du Collectif contre l'islamophobie en France. Je vous rappelle leur site www.islamophobie.net et leur contact, contact@islamophobie.net. Il y a une antenne locale à Grenoble, c'est le CCIF. Alors, le contact de l'antenne locale, c'est CCIF38@islamophobie.net. Il y a un numéro de téléphone pour pouvoir témoigner d'actes d'islamophobie ou avoir des conseils, c'est le 09 54 80 25 93. Donc le numéro de téléphone du CCIF en France, 09 54 80 25 93. L'antenne locale du CCIF a organisé le 29 novembre dernier des permanences juridiques à la Grande Mosquée des Chirolles et à la Mosquée Omar à Saint-Martin-d'Air. Donc ils organisent régulièrement des événements. N'hésitez pas à vous informer de ce qui se passe au niveau local et qui est organisé par le CCIF. Et voilà, pour les contacter, ccif38@islamophobie.net. Voilà, j'en ai fini avec ce point juridique. J'espère que c'était pas trop assommant et compréhensible.
C'était très très clair et très intéressant. Du coup, on termine ce chapitre sur l'état d'urgence et globalement sur les post-attentats du 13 novembre. Et voilà, un sujet assez riche. On avait prévu du coup un petit reportage sur le plan hivernal. Donc comme on a déjà pas mal dépassé le temps, on va pas pouvoir passer cette fois-ci. On voulait quand même vous en parler rapidement parce que notre colère est quand même importante par rapport à ça. Pour faire un petit rappel des faits entre guillemets, donc le 1er novembre dernier a commencé l'hiver concernant l'hébergement et le logement. C'est-à-dire d'une part la trêve hivernale, l'encadrement un peu plus strict des expulsions de logements, de bâtiments ou de terrains, et d'autre part, le démarrage donc de ce plan hivernal, c'est-à-dire l'ouverture de places d'hébergement supplémentaires pour que les personnes à la rue ne passent pas l'hiver dehors. Sauf que ce plan hivernal est tout à fait insuffisant. On estime que 2400 personnes aujourd'hui en Isère sont à la rue, 1900 dans l'agglomération grenobloise, et seulement 325 places d'hébergement ont été ouverts cette année. Ce qui veut quand même dire que plus de 2000 personnes vont passer encore cette année l'hiver à la rue. Et globalement, on peut quand même reprocher que même en été, c'est quand même scandaleux que 2400 personnes restent à la rue sans toit et sans possibilité à un moment de s'abriter contre les intempéries ou contre quoi que ce soit. On pourrait, mais bien sûr, les revendications de micro-ondes, et on en parlera lors des prochaines émissions, c'est l'ouverture immédiate de places d'hébergement et puis aussi l'ouverture de places d'hébergement plus dignes pour ces personnes, puisque comme on le verra justement, ces hébergements sont relativement stricts, encadrés et ne constituent pas un lieu que la personne hébergée peut s'approprier vraiment et y vivre un peu comme elle le souhaiterait.
Mais du coup, on reviendra à une prochaine émission plus longuement, il faudra qu'on prenne vraiment le temps de passer les reportages qu'il y a et tout, parce qu'il y a pas mal de matière.
C'est ça, le temps file et notre colère ne diminue pas. On continue sur un sujet qui nous met aussi en colère, et donc sur des sujets qui nous mettent en colère ou qui nous réjouissent, c'est donc les derniers temps de cette émission et les petites brèves. Le 11 décembre prochain, c'est-à-dire dans 5 jours, c'est la fin de l'aide d'urgence. La fin de l'aide d'urgence, c'est donc une aide qui est attribuée par le Conseil général de l'Isère, qui est environ de 50 euros par enfant scolarisé, et elle est attribuée pour les personnes qui n'ont tout bêtement aucun droit, c'est-à-dire pas de RSA, pas d'allocation familiale, etc., parce qu'elles ne sont pas ressortissantes français, alors ces personnes n'ont aucun droit. Et le Conseil général, au titre de la protection de l'enfance, ce qui est bien sa compétence, ce qui est bien le minimum, attribuait jusqu'ici une somme donc de 50 euros par mois environ par enfant scolarisé. Le Conseil général ayant changé il y a un an de couleur politique, les choses se sont beaucoup durcies. On savait que déjà 93 000 euros ont été supprimés pour justement la création, enfin le soutien au campement AS Monin 93 000 euros qui ont accentué et accéléré le démantèlement du camp. Aujourd'hui, une nouvelle attaque donc contre les personnes qui sont vraiment dans la plus grande précarité. C'est donc 50 euros par enfant scolarisé qui vont être supprimés et qui condamnent les personnes à se débrouiller par elles-mêmes, à faire la manche ou peut-être à trouver l'argent où il se trouve, puisque pour manger, il faut se débrouiller parfois. Une autre brève tout de suite.
Et oui, alors pour celles et ceux qui s'en souviennent, à la dernière émission, on avait annoncé la victoire des Chibani au Prud'homme face à la SNCF. Donc on rappelle, les Chibani, c'était ces personnes retraitées de la SNCF, pour la plupart marocaines, qui avaient assigné la SNCF en procès parce qu'ils souffraient de discrimination au travail et par rapport à la retraite. La SNCF a été condamnée à verser entre 150 000 et 230 000 euros d'indemnité aux personnes, ce qui faisait en tout 170 millions d'euros pour la SNCF, parce qu'il y a quand même plus de 800 personnes qui les avaient assignées. Eh bien, cette victoire a été de courte durée parce que la SNCF a fait appel. Donc, on ne sait pas encore ce que ça va donner, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en attendant, les indemnités ne seront pas versées jusqu'à ce qu'il y ait le résultat de cet appel. Donc, la lutte continue pour les Chibani. Ensuite, moi, je voulais vous parler d'une affaire dont vous avez sans doute déjà entendu parler dans les autres médias, qui est l'affaire Jacqueline Sauvage. Donc, Jacqueline Sauvage, c'est cette femme qui avait tué son mari en 2012 après 47 ans de violences conjugales subies, de sévices sur ses enfants, le suicide de son fils. Enfin, bon, une histoire bien, bien dure. Et elle est passée en appel et l'appel a confirmé la peine qui lui avait été initialement donnée, qui est de 10 ans de prison. Donc nous, on a voulu en parler ici pour deux raisons. C'est que dans cette émission, on vous a parlé à plusieurs reprises des violences policières, des meurtres commis par la police et à quel point c'est dur pour les familles d'obtenir justice, d'obtenir une peine de prison, même si elle est prévue par la loi et qu'il y a une impunité qui est là. Et qu'en fait, on remarque que cette même justice, elle refuse de reconnaître la légitime défense à cette femme. Il n'y a pas de circonstances atténuantes. Et on voit la situation absurde, quoi, de ce qui se passe dans les tribunaux. Donc 10 ans pour ça, c'est quand même assez incroyable. Et aussi, il nous semblait important de rappeler que les violences conjugales dans le monde et en Europe sont la première cause de décès et d'invalidité des femmes âgées entre 19 et 44 ans, devant le cancer, devant les accidents de la route. On estime que chaque année en France, il y a 150 femmes en moyenne qui meurent sous les coups de leur conjoint. Il y a 70 000 plaintes chaque année pour violences conjugales. Et on sait que les plaintes, ça représente maximum 20% de ce qui se passe vraiment. Du coup, quand on voit l'ampleur de ces chiffres, on se demande, pourquoi ça justifie pas d'état d'urgence, en fait? Pourquoi on ne demande pas aux hommes de se désolidariser massivement, de prendre la rue, de manifester pour dire que vraiment, eux, c'est des hommes bons qui ne feraient jamais ça? Voilà, moi, je fais ce parallèle parce qu'on a beaucoup parlé de comment on demande aux musulmans de France de se désolidariser de quelques allumés qui vont faire des attentats. Et là, on voit quand même qu'il y a une violence masculine, patriarcale, pour employer des grands mots, qui est là en France. Mais ça, c'est pas vraiment un problème de société, en fait. Voilà, c'était ça pour cette brève.
Petite brève bien, bien portée. Et on termine du coup sur la dernière brève, qui est donc un coup de chapeau un petit peu, enfin une petite note un peu positive. On essaye toujours de terminer là-dessus. Après, vous avez parlé de plein de choses un peu difficiles. C'est donc à Calais. À Calais, qu'est-ce qui se passe du coup? Une frontière, la frontière est fermée pour aller en Angleterre et plusieurs milliers de personnes sont bloquées. Aujourd'hui, on estime qu'elles sont plus de 5000 à être bloquées à Calais, alors que le camp n'est prévu que pour 1000 personnes, la structure d'hébergement n'est prévue que pour 1000 personnes. C'est donc des milliers de personnes qui sont là encore en train de vivre dans des conditions complètement insalubres. Et pour résoudre le problème, le gouvernement avait eu l'idée lumineuse, non pas d'agrandir le camp, non pas d'ouvrir la frontière en direction de l'Angleterre, mais bel et bien de rafler des migrants par bus complet, en arrêtant les migrants, en leur distribuant des obligations à quitter le territoire français et en les emmenant dans des différents centres de rétention administrative aux quatre coins de la France afin que ceux-ci soient jugés. Eh bien, cette mesure et cette initiative du gouvernement français a été jugée coupable, entre guillemets, a été condamnée par, du coup, la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, qui est donc une instance de l'État. Et cette contrôleuse a jugé illégal et illégitime l'ensemble de ces déplacements de population de migrants, donc, vivant à Calais. On continue tout de suite vers l'agenda et donc plusieurs petites infos pour les temps à venir.
Alors, on On a beaucoup parlé dans cette émission de l'état d'urgence. Eh bien, le mercredi 9 décembre, il y a un collectif qui s'est formé pour l'occasion qui appelle à une manifestation qui s'appelle « État d'urgence, nos libertés dans le coma ». Du coup, c'est le mercredi 9, rendez-vous à la gare de Grenoble à 18h. Ensuite, on peut revenir sur ce que nous ont annoncé nos invités tout à l'heure du collectif de la dignité et contre le racisme 38, qui le 19 janvier feront un retour sur la marche qui a eu lieu à Paris le 31 octobre. Ils n'avaient pas encore toutes les informations, donc n'hésitez pas à regarder sur leur Facebook pour avoir plus d'infos. Et pour finir avec l'agenda radio, ce soir, n'oubliez pas d'écouter les Nuits du Bled avec Mohamed, de 19h à 21h. Et également sur News FM, on vous recommande une nouvelle émission qui s'appelle Parloir Libre, qui est tous les premiers et troisièmes jeudis du mois de 21h à 22h et qui permet de rentrer en communication, d'établir une communication entre les prisons et l'extérieur. Donc n'hésitez pas à appeler pour passer des messages ou laisser des messages sur le Facebook.
Et puis leur prochaine émission sera dans la nuit du 31 décembre prochain.
Un chouette réveillon donc en perspective pour les personnes qui écouteront News FM. Voilà, pour terminer, je rajoute aussi un petit point à l'agenda. On n'a pas encore la date très précise, mais un avocat, du coup, invité par un réseau qui s'appelle La Quadrature du Net, devrait venir très prochainement pour faire justement un topo sur l'état d'urgence et expliquer les implications. Voilà. Si jamais vous n'en avez pas eu assez avec ce brillant topo qu'on a eu à cette émission, n'hésitez pas à venir. Ce sera a priori le 9 ou le 12 décembre. Voilà, une date à confirmer. Donc, suivez La Quadrature du Net à Grenoble. Et les prochaines émissions, donc la prochaine émission sera pour nous le 3 janvier, dimanche 3 janvier, juste après ce super réveillon que vous passerez en compagnie de Parloir Libre. Le thème sera, là, a priori, donc les frontières et justement la politique aux frontières par l'Union européenne. Et puis, on vous avait parlé donc la semaine dernière, enfin le mois dernier dans l'agenda, donc d'une conférence d'Éric Fassin sur les Roms et les politiques municipales envers les Roms. On reviendra aussi là-dessus dans l'émission du mois de janvier. D'ici là, restez à l'écoute du 101.2. Podcastez notre émission sur le site de newsfm.fr. Réécoutez l'émission en rediffusion dans 2 semaines, donc le troisième dimanche du mois sur News FM 101.2 encore une fois. Et puis, à bientôt.
Au revoir et au mois prochain. Et on se quitte en musique avec une chanson que je ne sais pas du tout ce que ça va être. Bah, t'as-tu des informations?
I Am Dangerous de I Am.
Bonne journée.
Ciao.
Au revoir.
Au revoir. Les dangereux.
I am dangerous, dangerous, dangerous. Verbe sur un papier, compose des textes et des scandes. Oui, ma langue est déliée, mon délié de parler haut. Relater ce que mes consorts n'exprimeront jamais dans un micro. Les camps sont marqués, nous sommes simples électeurs. Mais rien n'empêche d'apporter plus de terreur dans leurs erreurs. Je pensais même pas les effleurer, mais j'ai dû déchanter quand le juge a voulu me convoquer. Ce n'était pas la première fois pour un groupe de rap que la censure frappe et les citations tapent. Va donc, je me suis dit, le texte est cool, y'a pas de info. J'étais devenu l'ennemi public des ascétiques. C'était clair, les hauts placés voulaient mon trophée. Un mois après, ces endos fait bloquer mon dossier. Ce que le cinéma se permet, la télé, les livres et les magazines, pour nous c'est prohibé. Incitation à la violence. C'est comme si pour chaque meurtre on inculpait Jack Balance. J'ai des problèmes de communication. Les RG écoutent toutes mes conversations. J'en ai des frissons. Ça perturbe ma vie. Ma haine grandit chaque fois que minute écrit. À déblatérer des mensonges malsains. Demander à ma mère si son fils est un assassin. Il déclenche ma revanche à leurs dépens. Si je pouvais vivre loin des serpents, je croyais être un type sympa. Un père exemplaire merveilleux pour eux. Je suis dangereux. I am dangerous. Dangerous.
Damn you! Dangerous! Damn you! Z-
si on m'avait dit qu'un jour je serais classé fiché, tout simplement pour avoir exprimé mes idées, aborder des sujets jugés tabous, mis sur papier tout ce qu'il se passe autour de nous. Je pensais vivre dans un pays libre, naïf. J'ai compris qu'indésirables sont les esprits non passifs. En refusant d'être un mouton, de rentrer dans le troupeau, de fermer les yeux et de tourner le dos au format dans lequel ils tentèrent de me faire entrer, je me suis vu qualifié de rebelle d'une société hypocrite où certains ont tant de pouvoir qu'en toute impunité ils peuvent cracher sur l'histoire. Ce noir constat m'oblige à prendre des risques, à libérer ma pensée, à devenir un journaliste, un fugitif, un dénonciateur, un haut-parleur trop souvent placé au centre du viseur de ceux qui se croient à l'abri de l'œil avisé de gens à l'affût et qui ne laissent rien passer. La liberté d'expression, vaste plaisanterie, l'écart est grand entre ce qui s'entend et ce qui est dit. J'énonce des faits, bien que ça me coûte des photos sur des murs, des téléphones sur table d'écoute. On me reproche de crier trop fort ce que je pense, de mettre un miroir en face des gens, ça, ça les dérange. Et si le blanc représente la pureté aujourd'hui, même en plein soleil, tous les chats sont gris. Je voudrais faire le bien et rien d'autre, mais pour eux, je suis un mouton galeux, un mec dangereux.
Micro-ondes.
Une émission qui vous tient à contre-courant.
Tous les premiers dimanches du mois.
On vous parle de sujets brûlants.
Mais c'est pas de réchauffer.
Une émission qui s'attaque au racisme,
aux frontières
et aux injustices sociales. À l'intérieur, pas de la lutte, que de la lutte.
De midi à 14h.
Sur News FM 101.2.